Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour le podcast de la trentaine, le podcast des survivants. On a viré un peu les vieux qui sont ou malades, en train de crever ou en train de patauger dans leur cave. Bref, on adresse évidemment nos chaleureux remerciements à Traz et à Plumeau. Et pour le coup, la fougue de la jeunesse est avec moi aujourd'hui puisque je suis entouré de Johnny.
Bonjour.
Jour de congé One. Ça va Johnny?
Très bien.
Ça va.
Et ce cher Romain, stage de 3ème Mahu.
Voilà, mais nous on a tous les trois le coronavirus. Mais comme on est jeune, et bah ça passe, ça passe sans problème.
Donc, Poufy aussi d'ailleurs, pète la forme.
Ah ouais, les jeunes trentenaires fringants. Voilà, c'est comme ça qu'on va nous appeler.
Ça produit de l'anticorps. Hein.
Ça fait un bon nom de boys band.
Bref, pour cette semaine, évidemment, en plus des rubriques habituelles, le win, le fail, l'anniversaire il y a 10 ans sur Gameblog et le hors-jeu, on va parler d'abord de Nioh 2 avec la lame affûtée de Johnny One.
Tout à fait, exactement.
Qui l'a un peu retourné dans tous les sens.
On a découpé du Hawkeye.
Et ensuite, changement de décor complet, puisqu'on va parler de Wunderling, un petit platformer 2D absolument ravissant, qui est mon premier coup de cœur de l'année. Et enfin, dans une toute autre ambiance, One Punch Man, avec toi Romain.
One Punch Man, qui est nettement moins, nettement moins réjouissant pour le coup, malheureusement, mais on en parlera plus en détail tout à l'heure.
Et du coup, eh bien, on va commencer avec mauvaise.
Un petit.
Ah, attention, j'ai peur. Vas-y.
Une petite pastille sur la petite palette pour manette DualShock PS4.
Oui, voilà. Qui sera inclus à l'intérieur de ta prévue de Nioh 2, puisque tu as pu profiter de l'extension dorsale machin truc de la DualShock 4.
Qui arrive pile poil dans le cycle de vie de la console.
Ah oui,
où
alors,
c'est vraiment
où il
nécessaire
faut, hein.
d'ajouter des
Ça nous prépare au futur, les enfants, vous inquiétez pas. Mais bon, on va commencer ce podcast avec une nouvelle un petit peu réjouissante. Pour le coup, il est encore question de sabre aiguisé, puisque c'est toi qui t'occupes du win, mon cher Johnny One.
Tout à fait. Et oui, cette semaine, on a donc eu une petite nouvelle qui nous a réjouis ici chez Gameblog, puisque en effet, on a eu droit à la date de sortie de Ghost of Tsushima.
Enfin.
Alors, si les fans de Japon médiéval, féodal, un peu fantastique, sont servis en ce moment, enfin vont être servis, je pense, en ce moment, avec la sortie de Nioh 2, qui pourrait très bien être leur jeu du printemps, eh bien, il se pourrait très bien qu'un autre jeu qui se passe dans un peu le même univers, ce Japon médiéval.
En plus réaliste quand même.
Ouais, un peu plus réaliste, j'avoue. Mais pas moins stylé, hein. Franchement, la DA, elle est vraiment ouf. Et ben voilà, ils pourraient peut-être tenir là leur jeu de l'été, qui sait, puisque la date de sortie est annoncée au 26 juin. Eh oui, donc on a plus tant de temps que ça à attendre avant de pouvoir profiter d'une des dernières grosses exclus de la PlayStation 4. Moi, je sais pas vous, mais quand je vois ces images, j'ai hâte d'y jouer. C'est vraiment magnifique, on retrouve cette DA là qu'on retrouve dans pas mal de jeux récemment, hein. Que ce soit Sekiro, la Nioh 2. Voilà, c'est vraiment magique, très beau. Tous les trailers, les images qu'on a pu voir nous en mettent vraiment plein la vue. Plein la vue.
Et... Bah, on n'a pas forcément eu le même ressenti, nous, quand on a découvert le trailer, en tout cas à la rédac, on a été plusieurs à se dire « Ah, bon, d'accord. »
Alors, c'est clairement pas moche, hein. Ça serait mentir que de dire ça. Moi, c'est un jeu que j'attends beaucoup, Ghost of Tsushima, mais je serais quand même curieux de faire des comparos sur des séquences équivalentes avec ce qui nous avait été montré il y a deux ans. Mmh. Et ce qu'on va avoir finalement, je sais pas, il y avait des petits trucs qu'on voyait qui m'ont fait un peu bizarre. Je sais pas, ça avait l'air un petit peu moins, peut-être un poil moins fin que ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent, mais l'ambiance a l'air quand même cool.
Ouais, puis les séquences de gameplay, ça fait bon, bah, jeu d'action 3D avec un type qui manie un sabre, et du coup, ouais, je ne sais pas, j'attends de voir.
On verra bien. Mais en tout cas, ce qui est curieux, c'est que Sony va balancer ses deux grosses dernières cartouches PS4 quasiment à la suite, avec Last of Us qui est en mai, je crois, et Ghost of Tsushima le mois suivant. En plus, fin juin, comme ça, c'est pas une période trop propice aux sorties de gros jeux, donc c'est un choix étonnant. Après,
ça veut peut-être dire qu'il y a des choses incroyables qui nous attendent pour la rentrée.
Après, moi, je serais pas du tout étonné. Bah, techniquement, la PS5, elle est pour la fin d'année, donc s'ils veulent le sortir absolument sur PS4, oui, c'est le moment. Après, je serais curieux de voir si The Last of Us et Ghost of Tsushima n'auront pas le droit à un petit patch PS5 au moment de la sortie de la PS5, comme ça. Oui, vous avez déjà acheté le jeu, et bah, profitez-en dans une version encore plus belle.
Ça paraît pas déconnant
sur PS5.
Surtout au vu des tout premiers trailers qu'on nous avait montrés, qui étaient quand même absolument magnifiques.
Ah ouais, moi je me rappelle, il nous avait fait à l'E3, il nous avait remontré le trailer. sauf que c'était en temps réel, donc il s'arrêtait à certains moments et il déplaçait la caméra dans les environnements comme ça pour nous montrer que c'était pas que du pré-calculé, tu vois, et c'était vraiment très très joli, donc à voir sur le jeu complet. Un autre petit truc moi qui m'embête un peu, c'est que j'ai regardé la version japonaise du trailer aussi, donc ils nous avaient expliqué qu'ils avaient fait l'effort, vu que ça se passe au Japon Japon du Moyen-Âge, etc., faire un doublage japonais, ce qu'ils ont fait, mais malheureusement la synchro labiale elle est uniquement faite sur l'anglais, donc on sent que ça a été doublé par dessus en fait. C'est, bon, c'est un peu dommage.
Les pour anglais des personnages japonais, ont l'accent japonais, faudra s'en contenter du coup.
ils prennent un accent, oui, c'est... En fait, le seul accent que t'as pas le droit de prendre dans un jeu, c'est l'accent français, visiblement. Sauf quand c'est dans une comédie et que tu veux te foutre de la gueule des Français. Mais sinon, quand c'est un jeu sérieux, non, il faut qu'ils aient l'accent anglais, parce que le français, ça passe mal. Hein, Ubi ?
Et on va rester du coup au Japon avec le fail, mon cher Romain.
Oui. Alors un fail, c'est plutôt quelque chose de triste, parce que ce bon vieux Masahiro Sakurai, ce feignant devant l'éternel, explique dans sa dernière chronique de Famitsu qu'il a fait un malaise à la salle de sport récemment. Il était là certainement en train de soulever de la fonte, comme on sait qu'il aime le faire à Donf. Et ouais, il a fait un malaise, il s'est effondré. Alors il explique que il suit actuellement un régime faible en glucides et qu'il mange beaucoup de viande, mais surtout qu'il est très fatigué et
nous avait déjà dit dans plusieurs vidéos quand même à plusieurs reprises
en pleine déshydratation, donc c'est tu sens le mec qui est quand même au top de la forme. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a quelques temps dans une interview il avait dit qu'une fois où il était tombé malade, il avait demandé à être mis sous perfusion pour pouvoir continuer à travailler plutôt que de rester à l'hôpital ou de s'arrêter comme ça. Donc le mec est peut-être un petit peu masochiste, parce que il lui arrive sans arrêt des pépins, il est clairement pas en forme, ça se lit un peu sur son visage en plus, soit dit en passant,
même quand il fait des blagues très fatigué quand même,
mais il continue et il a un rythme de vie qui doit être qui doit aller au-delà de ce qu'on imagine. Parce que quand on sait qu'en 2019, il a joué à 242 jeux PS4, alors il les a peut-être pas tous finis, mais quand même, 242 jeux PS4, même Johnny One rougit,
tu
vois.
Moi, je joue mes plus grandes années, c'était une centaine.
Ouais, la 240.
Voilà, c'est vous dire le niveau.
Oui, et en plus, quand il avait dit ça, il avait dit que ça comptait pas ses jeux PC, ça comptait pas ses jeux Switch, etc.
Ah oui, c'était vraiment juste sur une plateforme.
C'était le petit logiciel, quand tu rentres ton nom de compte PS4, t'avais ton récapitulatif de l'année, tu vois, et ben là c'était ça, 242 jeux sur PS4, donc il travaille comme un taré. En plus ils lui font rajouter des personnages tout le temps, et il est vraiment très impliqué dans le processus
et très méticuleux en plus.
Alors si en plus il se bute au sport comme ce cher Rami, je donne pas cher de la peau de Sakurai. Hein. Il faudrait qu'il lève le pied un peu.
Mais c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Ultimate, prenne... l'épisode. C'est le dernier, en fait. ça sera vraiment le dernier de Sakurai. Hein. Alors évidemment, on lui souhaite un bon rétablissement, mais surtout des vacances.
Ça sera lui le dernier personnage DLC du DLC.
C'est
du
pour
jeu,
ça qu'il s'entraîne à soulever de la fonte. C'est pour déclencher ses attaques spéciales.
Et donc, ouais, petit coup de mou pour Sakurai. On lui souhaite de prendre du repos et de prendre soin de sa santé, parce que une fois qu'on a plus la santé, on n'a plus grand-chose.
C'est ce qui nous reste, voilà. Effectivement. Ce qui nous reste, nous, c'est des souvenirs d'un passé lointain. C'est l'heure d'il y a 10 ans sur Gameblog.
Alors, je tiens à souligner le grand skill d'animateur de Thomas. Magnifique transition.
Alors, oui, tu me diras ça quand le podcast sera terminé et que tout se sera bien passé.
Et moi, ce que je note surtout, c'est que là, on est sur la rubrique il y a 10 ans, mais on s'est enfin débarrassé de tous les historiques. Ils sont, ça y est, il n'y a plus de traces, plus de plumes.
C'est triste.
La première fois qu'on prend le contrôle. Moi, il m'aura fallu 6 ans. Hein, voilà, c'est parce que dans l'esprit de certains, je suis toujours un petit nouveau. Hein. Quand t'étais pas là, Day One,
c'est pour ça que t'es là. Hein.
Quand pas là,
tu fais partie des jeunes.
Ouais,
donc,
je représente la jeunesse. Ouais. Pour certains, quand t'étais pas là, Day One sur Gameblog, tu comptes pas. Il y en a certains, en 6 ans, ont toujours pas retenu mon prénom. Donc, tu vois,
vous êtes.
Et même moi, je doute parfois.
Le brun à lunettes, oui, c'est ça.
C'est ça, le clone des autres.
Mais il y a 10 ans, justement, avec certains des fondateurs de Gameblog, on vous parlait de choses et d'autres, et pas forcément de bonnes nouvelles, puisque une fois n'est pas coutume dans cette rubrique, on va vous parler d'un dépôt de bilan et d'un studio qui mettait la clé sous la porte, et en l'occurrence, ça a de quoi nous attrister, puisque c'était le studio Sing, et pour le coup, c'est un studio qu'on aime beaucoup. Je sais que Romain est un grand fan aussi de certaines de leurs productions, puisque C'était le studio japonais qui avait entre autres développé A Little King Story, mais surtout tout un tas d'aventures visuelles comme Another Code, sa suite Air, Hotel Dusk aussi, qu'on aime beaucoup chez Gameblog, et pareil, sa suite Last Window.
L'âge d'or de la DS.
Ouais.
Un très bon moment, effectivement, où on se permettait d'expérimenter un petit peu aussi avec justement cette technologie, ne serait-ce que de refermer la console. C'est le premier jeu avant même Phantom Hourglass qui te demandait de tamponner un document en refermant la console, ce que j'ai eu toutes les peines du monde à faire, parce que tu sais, je pensais que c'était à nouveau le coup du éteins ta console, tu vas voir. C'est comme ça que tu avances.
C'est là où t'arrives à un point où t'as plus confiance
dans les
quand un jeu te dit, quand un jeu te dit quelque chose, t'as l'impression de te faire enflouer, mais c'est se faire fouiller plutôt. Oui, Sing, tu penses qu'ils ont fait le chant du Sing quand ils ont fermé?
Pas mal.
Ça aurait pu faire l'inter de la news à l'époque.
Ouais, oui, si elle avait été un peu plus longue, effectivement, on aurait pu mettre ce titre-là. Mais du coup, c'était évidemment une très mauvaise nouvelle, puisque après avoir essuyé près de 2 millions d'euros de dettes, eh bien, le studio déclarait la banqueroute au 1er mars justement 2010.
Alors moi j'ai joué à leur jeu après, hein, parce que je sais que, par exemple, le Little King Story, il est ressorti sur Vita après.
Oui, exact. Voilà.
C'était très bon d'ailleurs, j'avais adoré.
Donc ça veut dire qu'il y a d'autres boîtes qui ont récupéré les.
Alors je sais pas vraiment, mais en tout cas,
ou qui étaient déjà lancés dans le portage du coup, et qui ont honoré le contrat.
Ouais, c'était New Little King Story, et ça fait pas 10 ans que j'y ai joué, hein, clairement, et je l'ai fait à sa sortie.
Donc voilà, c'était évidemment avec beaucoup de tristesse qu'on apprenait la disparition de ce studio. Et pour le coup, on va se détendre un petit peu avec un lancement qui tournait mal également, celui de Star Trek Online. Et Fasquille nous racontait un petit peu les déboires du studio qui lançait justement ce MMO, et qui nous rappelait que les fanboys, enfin les Trekkies, étaient avec les fanboys de Lady Gaga les créatures les plus teigneuses de la galaxie. Et en l'occurrence, on en avait la preuve, puisque... En fait, pour lancer Star Trek Online, l'éditeur Atari avait proposé une réduction de $10 justement sur le prix du jeu, ainsi que 60 jours de gratuité pour le tester en ligne, en plus des 30 jours qui étaient inclus dans l'offre de base. Alors, en soi, ça a l'air quand même plutôt sympa, on se dit mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Le problème, c'est que Atari a commencé à bannir de ses forums des utilisateurs qui étaient un petit peu révoltés parce qu'ils avaient payé le jeu plein pot, qui n'avaient pas profité justement de la réduction. Et du coup, comme ça se faisait en ce temps-là, eh bien, on dégageait les forumers pas très contents. Évidemment, on imagine la réaction de ceux qui sont restés, même de ceux qui se sont fait bannir. La gronde a commencé à prendre de l'ampleur, du coup, ça a été un petit peu le bordel, tant et si bien qu'Atari a décidé finalement d'annuler tout ça et de ne pas rembourser justement l'argent qui avait été investi pour certains dans un abonnement à vie. Bref, c'était un lancement en forme de grand, grand n'importe quoi, même si le public visé était des Trekkies.
Bah Atari, quoi.
Voilà, Atari. Et le truc, c'est que ça s'est tellement bien passé.
C'est pas les mecs qui ont produit plus de cartouches que de consoles, là, sur un certain jeu, qu'ils ont dû enterrer dans le désert.
Oui, c'est ça, mais c'était pas, c'est plus le même Atari, on va dire. Mais
c'est l'Atari 83.
On va dire que l'Atari, c'est un peu le virus qui se répand de boulettes.
Le nom est porteur de boulettes.
Et du coup, eh ben, au 1er septembre 2011, l'éditeur était obligé d'annoncer que le jeu allait passer justement free-to-play, un changement de modèle qui sera effectif dès le mois de janvier 2012. Donc voilà, ça n'aura pas forcément duré bien longtemps, et ça nous a quand même fait plutôt marrer. Ouais.
Mais c'était un peu la période, hein, je sais pas si tu te souviens, avec plein de MMO qui se lançaient comme ça, avec des modèles économiques qui essayaient de copier un peu celui de WoW.
Le succès insolent de WoW.
Et ben, ça prenait pas, et la plupart, je me rappelle d'un... Et pourtant, je suis pas du tout joueur PC, et encore moins joueur de MMO, pas Conan, mais
Conan Exile.
Ouais, mais avant ça, ils en avaient fait un MMO Conan. Ça s'appelait, c'était pas Conan Exile.
Alors c'est Camille qui te.
Qui était sorti qui était sorti avec un abonnement payant, pareil, qui avait pas du tout marché, et il l'avait passé en free to play. Ensuite, ça avait permis au jeu de se relancer. Il est encore en ligne Star Trek Online, ou c'est fini?
Alors, je t'avoue que je n'ai pas regardé. J'aurais tendance à penser que non pour le coup.
Tu peux faire la recherche.
Vu le départ, j'ai quelques doutes sur la pérennité du truc, mais vous allez nous le dire justement.
Licence un Star Trek, hein, mine de rien, sa grosse communauté. Par contre, ce que disait Fasquille au sujet des fans de Star Trek les plus hargneux avec ceux de Lady Gaga, je pense qu'il y en a.
T'as d'autres communautés en tête.
Ouais, j'en ai une particulier que je ne citerai pas parce que j'en ai assez qu'elle vienne me faire chier sur Twitter, mais oui, j'ai une communauté bien en tête. Ouais.
Bah, tu pourras le caser dans une prochaine news quand il y aura un lancement raté, ce qu'on espère.
Non, mais en fait,
évidemment pas.
Au fond, j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu fais partie d'une communauté de fans hardcore, enfin genre les plus purs et durs, t'es chiant d'une manière générale. C'est les fans les plus hardcore de quoi que ce soit, ce sont généralement les moins tolérants et les plus,
ben voilà,
les plus prêts à monter au, au créneau.
Dire, prenez ça dans les dents, les fans hardcore.
Mais non, mais c'est,
je suis sûr qu'il y en a, je suis sûr qu'il y en a des très gentils et des très raisonnés.
Et ben attends, je suis. Le truc a l'air d'être toujours en ligne. Hein.
Bon, eh ben, très bien. Eh ben, inscrivez-vous et puis lancez-vous dans l'aventure Star Trek Online, ce que vous voulez que je vous dise.
Alors, la dernière extension, elle date visiblement de 2014.
J'allais dire vers l'infini au-delà, mais je me suis souvenu que c'était pas la bonne quote.
Ouais, non, après, bon, après Wikipédia, Wikipédia, c'est pas forcément la meilleure source, mais j'ai l'impression que c'est encore en ligne. Bon, voilà.
Et pour finir avec cette rubrique nostalgique, on va parler du jeu PC, mais enfin, pas tout à fait, puisque on apprenait il y a 10 ans que Steam allait enfin débarquer pour les joueurs de Mac, puisque le service s'était lancé en septembre 2003 sur PC, et pendant toutes ces années, eh bien, il n'était pas accessible aux possesseurs de Mac, et pour le coup, on apprenait au mois de mars justement qu'à partir d'avril, les utilisateurs de la marque à la pomme allaient pouvoir enfin profiter justement de ce service de jeu en ligne. Alors, ça ne sera pas passé aussi facilement que ça, puisque l'arrivée de Steam sur Mac était donc prévue pour le mois d'avril. Finalement, ça a été décalé au mois de mai, mais ça s'est bel et bien fait, et ça a évidemment permis à tout un tas de joueurs de s'essayer à quelques classiques, ne serait-ce que de l'entreprise, puisqu'il y avait eu un petit événement autour de l'arrivée d'Half-Life 2 notamment, et ça m'a permis de voir aussi que les joueurs Linux étaient encore plus lésés, parce que eux ils auront dû attendre jusqu'à février 2013 pour voir le service arriver justement sur le système d'exploitation de Linux. Du coup, voilà, qui nous rappelle que s'il y a pas mal d'acquis aujourd'hui, c'était pas forcément le cas à l'époque, et que des fois les choses peuvent prendre pas mal de temps.
Après, moi je suis un utilisateur de Mac, donc quand Steam s'est lancé sur Mac, je l'ai téléchargé immédiatement. Mais faut se dire, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, l'offre en jeu sur Steam Mac, elle est quand même ridicule comparée à l'offre sur PC. Et quand un jeu PC, on va dire un triple A, sort sur PC, déjà c'est pas garanti qu'il sorte sur Mac. Et souvent cette sortie, elle se fait des années après. Hein,
on est toujours un peu étonné quand on voit directement justement Mac cité dans les plateformes de lancement d'un jeu. Quand ça arrive tout de suite, c'est suffisamment rare pour que ça nous saute aux yeux et que ça nous étonne à chaque fois.
L'offre de Steam sur Mac, elle est quand même assez limitée. Bon, les jeux Telltale avaient tendance à sortir en même temps partout. Bon, c'était du point and click, rien d'extraordinaire. Mais alors que les machines Mac, certaines en ont sous le capot malgré tout. Mais ouais, je sais pas pourquoi le jeu.
C'est loin d'être automatique.
Ouais, ça se passe pas pareil.
C'est assez amusant que ça se passe comme ça aujourd'hui, parce que rappelez-vous, il y a 20, 25, 30 ans, la plateforme Mac avait ses exclus. Hein.
Oui, tout à fait.
Il y avait des jeux, genre, j'en cite un par exemple comme ça, Syndicate. Moi, j'ai souvenir d'y avoir joué sur Mac, pas sur PC.
C'est sur Mac que j'ai découvert Syndicate aussi. Theme Park, Syndicate. Ah, bon, voilà, après, c'était pas des exclus, mais c'est les guignols de l'info.
Ah oui, que j'ai fait sur Windows, moi, pour le coup.
Enfin, voilà, il y avait une vraie culture gamer sur
au début,
Mac
ouais.
Au début, voilà. Quelque chose qui a un peu disparu.
Toujours un peu de je t'aime moi non plus entre le Mac et le jeu vidéo, enfin Apple et le jeu vidéo sur Mac en tout cas. Et on sait que Halo, à la base, le premier, ça devait être une grosse exclue Mac. Alors ensuite, ça a été racheté par Microsoft et c'est devenu le jeu phare de la Xbox, mais. Il y avait toujours des rumeurs par moment, genre ouais, on va relancer le jeu vidéo sur Mac, mais en fait ça se faisait pas, ou alors les annonces elles étaient pas exceptionnelles. Donc ouais, c'est un rapport particulier, mais c'est sûr que si tu n'as pas de console et que tu n'as pas de PC, le Mac c'est pas forcément la meilleure plateforme pour te tenir pile dans l'actu sur le jeu vidéo.
Et pourtant Dieu sait qu'on a dans les locaux de Gameblog des Macs. Et pas que chez nous d'ailleurs.
Ouais.
On enchaîne du coup avec le premier thème de cette semaine, un thème sanglant, un thème japonisant, puisque
tout à fait.
Ça y est, Nioh 2 est arrivé, mon cher Johnny One.
Eh oui, donc ça fait une bonne dizaine de jours, là, un peu plus même, qu'on le ponce bien comme il faut, en long, en large, en travers, en
tu
ligne.
Tu parles du jeu, hein.
Oui, en coopération, okay. Seul, enfin voilà. Et franchement.
Qui voudrait se faire poncer en long, en large et en travers par Johnny One à part un jeu, hein, moi.
Et donc voilà, donc on y a beaucoup joué et du coup bah on s'est fait un petit avis.
Donc alors, Nioh 2 qui est une préquelle si je ne dis pas de bêtises.
Oui c'est ça, donc il aurait pu s'appeler Nioh 0, mais en vrai tiens bah d'ailleurs ça va être un des seuls points négatifs de ce test en fait.
C'est
vrai.
Son nom
c'est-à-dire de quoi?
C'est le nom Nioh 2, le point négatif?
Ah non.
Tu m'as fait
c'est ce que j'avais compris aussi, la formulation de la phrase.
Non, il y a un point négatif dans le jeu qui sera peut-être un des seuls reproches que je peux lui faire, c'est que le scénario, donc l'histoire qui est un préquel en fait en vrai... tu t'en fiches. Voilà, c'est juste un prétexte à faire avancer des batailles. Le scénario, il est très diffus en plus. Il y a des ellipses, on te raconte pas tout. Il y a une encyclopédie qui te permet d'approfondir un peu l'univers, les monstres, qu'est-ce qui se passe, qui se faisait la guerre, à quelle époque. Parce qu'il y a un espèce de fond de réalité sur. Donc là, on peut voir les personnages qui sont à l'écran, c'est les mêmes personnages que dans Dynasty Warriors, puisque on les retrouve dans Nioh. Lui, c'est, je sais plus comment il s'appelle, c'est
Nobunaga. Donc il est question enfant de la guerre des trois royaumes.
Ouais, voilà, donc c'est tout ça, c'est cette époque-là. Et nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est un mi-homme, mi-okai, qui débarque dans l'univers et qui va essayer de tracer son petit chemin de vie et de faire son petit destin, de vivre son destin dans cet univers et cette période trouble du Japon du Moyen-Âge. Voilà. Mais vraiment, non, le scénario, ça vole pas plus vraiment haut que ça, c'est vraiment juste un prétexte, mais... Malgré tout, on ne boude pas notre plaisir de retrouver cet univers parce que la DA, elle est vraiment oufissime. Les décors sont stylés. Alors, c'est surtout de la forêt, de la Tsunuya et du temple, hein, d'accord, et du château.
Il faut bien respecter la thématique.
Hein, des grottes, enfin voilà. Mais ça reste quand même extrêmement dépaysant, extrêmement beau, extrêmement charmant. Pareil, au niveau des sons, on en prend plein les oreilles, toutes les musiques, les petits bruits, tout ça. Alors, on reprend pas mal de choses du premier. Non, vraiment, visuellement, c'est assez fou. Donc, même si l'histoire n'est pas génial, l'univers créé pour l'occasion pour Nioh, lui par contre l'est vraiment. Voilà.
Et en même temps ça permet à tout le monde de s'y essayer, même si t'as pas fait Nioh premier du nom justement.
Non.
Tu vas rien louper finalement.
Ouais, en vrai l'histoire de Nioh premier du nom aussi
était un peu aux F, donc ouais, c'est dans la continuité F, justement ouais, du premier ouais. opus.
Non vraiment.
Nioh.
Autant dans un Souls, on va vraiment faire des efforts de un Dark Souls d'aller chercher la petite histoire parce que c'est vraiment très 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 mystérieux.
Oui, et puis t'as de la narration à travers voilà, les décors aussi
y a,
dans les Souls.
Exactement. Là non, là c'est plus basique. Il y a de la cinématique, il y a de la cinématique animée, super classe. Notamment quand on récupère un nouveau pouvoir. Et il y a quelques petits passages de visual novel sur la carte aussi, lol.
Ce qui n'a pas été voilà. pour te déplaire, évidemment.
Non.
Du côté de dating sim aussi, qui est très chouette.
Toi aussi, ça, date un yokai.
Ça fait rigoler le visual novel, c'est un peu la narration un peu du pauvre. Et d'en voir un peu partout, quoi. Voilà.
Ça coûte moins cher les images
ouais,
figées.
Ouais,
attends, on va parler de One Punch Man en termes de narration du pauvre.
Enfin,
oui,
voilà.
Mais donc on n'est pas là pour se raconter des
non,
histoires.
On n'est pas là pour se raconter des histoires. Par contre, on est
ennemis.
Là pour en prendre plein les mirettes, ça, ouais, clairement. Et on en prend plein les mirettes. D'ailleurs, je vais terminer là-dessus sur la direction artistique. On a un éditeur de personnages, c'est-à-dire que dans Nioh 2, on crée son propre héros, Adios William du premier. Et là, ce coup-ci, c'est vous qui allez passer par un éditeur. Alors l'éditeur, il est extrêmement complet. Moi, j'attendais pas forcément la Team Ninja là-dessus, surtout quand on sait que dans Dead or Alive 6, il loue les couleurs de cheveux pour les personnages. On
a bien vu. Ouais.
Louer des couleurs de cheveux pour les personnages, voilà. Donc moi je les attendais vraiment pas là-dessus, mais bon après maintenant ça vient peut-être aussi de la maison mère Tecmo Koei et pas forcément de ce genre de décision commerciale. Donc là dans Nioh 2 on a un éditeur de personnages qui est génial. C'est-à-dire l'aventure commence avec tes parents qui te parlent en fait depuis l'outre-tombe, et quand tu choisis d'être un garçon il te dit oh c'est bien, tu seras fort mon fils machin etc. Pareil quand tu vas choisir, enfin en fait l'éditeur est déjà te met dans l'ambiance, voilà, avec justement comme je t'ai dit tes parents qui te parlent, et il est extrêmement complet. J'en ai rarement vu des aussi complets, voilà.
Du coup t'as passé du temps dessus.
Ouais, j'ai passé du temps dessus
et t'as pris ton pied.
J'ai pris mon pied. L'éditeur je le mets vraiment dans le haut du panier, de même par rapport à des CRPG classiques, voilà, je le mets vraiment 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 très très bien. Du genre par exemple les coupes de cheveux. Les coupes de cheveux, on a le choix entre plusieurs coupes de cheveux, une vingtaine, mais en fait les possibilités elles sont infinies parce que sur chaque coupe de cheveux, genre le carré pour une meuf, tu vas pouvoir régler sa frange, régler la longueur, régler la nuque, régler le machin, régler le truc, les couleurs, les formes, enfin voilà, en fait les possibilités elles sont vraiment énormes, pareil pour le visage, le corps, etc. Tu vas aussi pouvoir vraiment te créer un héros comme tu le veux, un monstre ou un beau personnage masculin ou féminin, le choix.
T'as
d'ailleurs,
opté pour quoi toi?
Moi une belle comment dirais-je,
Kunoichi.
Ouais voilà.
Créer Kazumi de Dead or Alive.
Non, c'est mon personnage que j'aime bien. Voilà, c'est le même genre de personnage que je crée dans tous les jeux en fait. Voilà. Donc l'éditeur, non, vraiment stylé. On peut y revenir à la volée. Pour ceux qui ont pas envie de se prendre la tête, ils peuvent prendre un skin de William s'ils ont une sauvegarde du premier dans la console. Mais vraiment, ça c'est très 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 complet et c'est vraiment un des points positifs du jeu. Moi, je trouve, j'ai vraiment aimé passer du temps sur cet éditeur. Voilà. Donc la direction artistique, c'est bien. c'est pas ouf en termes de scénar, mais on en prend plein la mirette et on apprécie évoluer dans ce monde tout simplement. En termes de gameplay, qu'est-ce que ça vaut ? On reste sur les bases du premier. Alors attention, on gagne quand même pas mal en fluidité. Moi j'ai trouvé, j'ai rejoué au premier aussi un petit peu. Je trouve que les déplacements du personnage sont plus fluides, moins rigides. On
il a moins l'impression qu'il a, niveau, ouais.
On a moins l'impression qu'il a un balai dans le fondement,
dans
quoi.
Dans le design du boss qu'on voit.
Ouais, moi aussi. Et surtout les couleurs même du décor, enfin, tout s'harmonise quand même vachement.
J'aime bien beaucoup ce que je vois depuis tout à l'heure, de toute façon.
Ce jeu est magnifique. Hein. Je vais terminer avec la DA là-dessus avant de repartir sur le gameplay. Je vais parler de technique. On en a fait le tour là-dessus. Le jeu, il est plus beau que le premier, clairement, il est plus fin. Ça aussi, encore une fois, j'ai pu comparer les deux épisodes. C'est pas on n'est pas encore au niveau d'un Ghost of Tsushima, je pense, ce qu'il sera, ou même d'un Horizon Zero Dawn, mais ça reste très 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 potable. Et en plus de ça, la direction artistique est folle, donc on en prend vraiment plein les mirettes. Et vous avez le choix entre un mode cinématique où la résolution est augmentée, ou un choix entre un mode action où vous tournez. Alors moi, j'ai joué sur PS4 Pro en 60 FPS constant.
Ça, voilà. C'est génial.
Et ça, c'est extraordinaire. Moi, j'adore. Donc on en finit là-dessus, on revient sur le gameplay. Donc,
très
gameplay,
bon point technique.
Vraiment j'ai été satisfait sur ce point. Le gameplay, voilà, il reprend les bases de ce qu'il y avait dans le premier, c'est-à-dire une jouabilité à la Souls. Quand on meurt, on perd son expérience, il y a des feux de camp, des raccourcis un peu partout, etc. La jauge d'endurance. On reste sur ce principe-là de base de gameplay, auquel vient s'ajouter une petite subtilité, c'est le... ça y est, j'ai un trou. À la fin d'un combo, tu peux appuyer sur une touche et recharger ta stamina directement. Bon, ça demande un petit peu d'entraînement et du skill.
Un sens du timing.
Voilà, un sens du timing, comme si on jouait à un jeu de rythme un peu. L'implosion de Ki. Voilà, ça s'appelle comme ça. Donc il y a toujours cette mécanique là. Il y en a une nouvelle qui vient s'ajouter, c'est le contre-explosif. Quand vos ennemis vous attaquent avec une attaque chargée, qui va devenir une grosse aura rouge autour d'eux, là, et bah à ce moment-là, c'est le moment où toi tu dois leur foncer dessus et lancer ton contre-explosif pour pouvoir les contrer et niquer à eux leur jauge de stamina pour ensuite pouvoir leur porter un coup fatal. Cette nouvelle mécanique, elle est cool parce qu'elle rajoute pas mal de subtilité au gameplay qui était final pas basique, hein, il était complet le gameplay du premier, mais ça rajoute un vrai truc, quoi. Voilà, un vrai truc dont on va se servir assez régulièrement. Les combats n'en sont que meilleurs, en fait. Voilà, que ce soit contre les boss, contre les mobs, contre les ennemis en exploration, on kiffe plus parce qu'on a plus de possibilités, on a plus de choix, on peut faire plus de
variété,
choses.
Justement,
plus
dans
de variété
ouais.
dans les approches et dans le gameplay. Voilà, exactement. C'est à dire que le contre, ce contre explosif, il est très puissant, mais tu peux très bien faire un combat et choisir de t'en passer. Ou tu peux très bien, par exemple, moi j'en ai déverrouillé un qui est un peu pété. Le contre-explosif, tu peux donc tuer un yokai dans ce jeu, et quand tu tues les yokai du jeu, tu peux récupérer leur pouvoir et lancer leurs attaques. Voilà. Moi j'en ai récupéré une qui était un peu pété.
Tu es un espèce de Kirby du coup.
Ouais, voilà, un peu.
En moins mignon.
Tu collectionnes des Pokémon très moches et puis tu peux utiliser leurs attaques. On peut voir ça comme ça aussi. Attrapez-les tous. D'ailleurs, il y a un succès pour tous les attraper. J'en ai un, moi, par exemple, c'est un grand serpent géant qui fait 3 allers-retours sur la map et il défonce tout. Il est un peu pété, celui-là, de pouvoir.
Mais alors justement, en termes de difficulté, est-ce qu'il faut s'attendre à en prendre encore plus plein les dents ?
Oui, vous allez en prendre plein la tronche. Le jeu est intraitable, il y a des pièges partout dans le level design. Les ennemis, le premier un peu gros ennemi que tu croises en deux coups, un premier coup, il t'a enlevé 90% de ta vie. Le deuxième coup, forcément, il te tue. Voilà. Même si tu as repris une potion entre-temps, la potion n'a pas, t'as pas remis assez pour que tu te prennes le deuxième coup, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Le jeu est très violent. Maintenant, quand on connaît un peu l'univers des Souls, on peut vraiment se faciliter la vie dans Nioh 2. Déjà, avec tout là, on voit les arbres de compétences, par exemple, Poufi est en train de nous montrer. Déjà, en utilisant ces compétences-là, c'est-à-dire qu'on peut préparer pas mal de magie, de techniques de ninja qui vont vraiment nous simplifier la vie, comme par exemple un talisman qui peut ralentir les boss. Alléluia. Magique, génial. Des petites bombes, ce genre de trucs qui vont nous permettre de finir un combat en grattant à la bombe, tu sais, quand il te reste zéro potion, un quart de fraction de vie, c'est pareil pour le boss.
Et que tu veux maintenir un peu de distance,
Tu vas pas aller te le faire corps à corps, non, tu vas le finir à la grenade. Voilà, ce genre de choses. Enfin voilà, on peut gruger pas mal, hein, d'accord ? Comme dans n'importe quel jeu de cette famille-là. Donc on peut se simplifier la vie. Il y a un autre truc qui va aussi grandement nous simplifier la vie, peut-être un peu trop même parfois, c'est la coopération. Alors la coopération, elle peut être jusqu'à 3 joueurs. Donc,
on l'a vu dans un stream en direct, les développeurs montrent un petit peu comment ça marchait. Ça peut aussi être un peu le bordel, visiblement.
C'est surtout pour les boss que c'est le bordel. Vraiment, notamment les boss humains. Parce que, alors ouais, vous allez croiser pas mal de types d'ennemis, des humains, mais aussi des démons, des yokai. Les boss humains, quand t'es à 3 vrais joueurs, ils font pas un pli, ils placent pas une attaque. Ils n'arrivent pas à placer une attaque,
ils se font massacrer.
Voilà. Bon. Mais ça apporte quand même un petit peu de satisfaction de les massacrer, ces boss qui nous ont fait tant de mal.
Oui, mais toi, t'as pas l'impression du coup qu'ils ont modulé la difficulté finalement en fonction
non.
du nombre de joueurs qui étaient présents.
J'ai pas l'impression. Okay. Et si c'est le cas, si le boss a plus de PV et t'as plus fort, tu le sens pas parce que en fait, en vrai, chacun, les joueurs sont assez intelligents et se relayent sur le boss pour ne lui laisser aucune ouverture, aucune. Genre, c'est, il y en a deux en train de taper, il y en a un troisième qui est en train de recharger sa stamina et on tourne comme ça. Voilà. Vraiment, c'est
pas terre,
ouais, mais... alors je sais pas quel mot utiliser, mais ouais, c'est un massacre.
Un massacre en bonne et due forme.
Ça me plairait bien d'y jouer en coop.
Ouais, c'est marrant. Alors là, c'est rigolo. Pendant le test, du coup, j'ai joué avec pas mal de gens. C'était toujours les mêmes, puisque on n'était pas beaucoup.
Oui, les quelques confrères qu'on récupère le jeu en avance, justement.
Les quelques reviewers. Alors c'était rigolo. On avait aussi un petit Discord sur lequel on se filait des tuyaux. Ah tiens, comment t'as fait pour ce boss là et tout machin. Ça aussi, ça fait partie de l'expérience un peu Souls. Alors oui, on peut se le découvrir soi-même tout seul comme un grand, mais la partie communautaire où on va chercher les secrets et où on partage, ça fait aussi partie de ce genre d'expérience là et c'est assez rigolo parce que du coup cette expérience là je l'ai déjà un peu vécu. Voilà.
Tu déposes pas de message dans Nioh 2, hein.
Non, tu poses des il y a beaucoup de le jeu, je dis, il y a beaucoup de choses qui le rendent plus facile, donc la magie, ce genre de choses, aussi le fait que tu aies beaucoup de potions. Le jeu te drop des potions tout le temps, genre lui là, le gros cyclone, le cyclope, si tu le tues, il y a une chance sur deux pour qu'il drop une potion. Voilà. Donc tu n'en manques jamais et tu peux très vite en avoir 8 dans le jeu. Donc là aussi, encore une fois, c'est du confort et ça simplifie un peu les choses. Et alors, attends, on disait la difficulté
ouais. Le fait de laisser des messages aussi les souls.
Et donc,
pour
tu as beaucoup
troller
de...
ou simplifier l'expérience.
Là, on voit dans les vidéos des marques rouges au sol. Tu as aussi des marques bleues, les marques bleues qui sont laissées par d'autres joueurs, comme dans Dark Souls en fait, où avec la marque de statite blanche, tu laissais une marque au sol pour que les autres joueurs t'invoquent. Là, c'est un peu pareil, sauf que c'est du asynchrone, c'est-à-dire les joueurs vont pas t'invoquer, ils vont invoquer un bot de toi. Avec une IA un peu débile, mais ça peut servir contre un boss à faire le lièvre un peu.
Ça te file un coup de main.
Voilà, ça sert d'appât, même si l'IA elle va pas résister très 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 longtemps. Après pour la coop c'est un peu différent, c'est pas les marques de stéatite comme dans Dark Souls, c'est en fait le joueur qui demande de l'aide doit déposer une coupe de choco au temple de prière et cette coupe permet à un visiteur qui va depuis son menu faire une visite aléatoire va venir aider le monde. Et alors ça généralement c'est génial en fait parce que c'est aussi des moments de jeu où même si c'est vrai que le jeu est plus facile, c'est super agréable de le faire avec quelqu'un qui connaît, qui te montre les secrets machin et tout, et t'as un peu l'impression de rouler dessus mais tu te rends compte de la difficulté du truc et tu te dis ouais putain si je l'avais fait tout seul mais mon dieu quoi, ça m'aurait pris 4 heures quoi.
Et toi même du coup t'es allé porter secours à des joueurs
qui
en avaient besoin.
Sur mes 2-3 dernières journées de test, j'ai stoppé ma progression perso et je suis allé filer des coups de main mes marques de très haut niveau dans les premières missions pour que les joueurs débutants puissent avoir un perso fort de IA qui viennent les aider, et je suis allé aider pas mal.
Et comment tu fais alors pour aller aider quelqu'un, parce que si tu as besoin d'aide tu peux déposer une requête au temple comme tu dis, mais quand toi tu veux aller aider quelqu'un tu fais comment?
Toi c'est tout simple, hein, t'es sur le menu, t'es sur la carte, parce que dans Nioh c'est des niveaux indépendants, c'est pas une grande carte ouverte comme dans un Dark Souls, donc t'es sur la map, tu vas sur l'option multijoueur
et là il te renvoie vers quelqu'un qui a besoin d'aide.
Voilà.
Et tu peux faire, est-ce que tu peux faire la coop avec des amis?
Oui, tu peux. Alors, il faut que ton ami ait. Vous pourrez pas faire le jeu en coop en même temps. Il faut que le joueur qui te rende visite ait déjà fini le niveau.
Ah ouais?
Ouais, tu comprends? Donc, demain tu t'achètes le jeu avec ton frangin. Non, vous pourrez pas le faire ensemble. Il faut qu'il y en ait un qui le finisse avant l'autre et qui aide l'autre.
Triste pour mon frère.
voilà. Mais bon, en ce moment, il y a pas mal de joueurs. D'ailleurs, c'est assez rigolo. En rejoignant au premier, je suis allé filer des coups de main dans le premier aussi. Il y a encore pas mal de joueurs qui jouent au premier en ce moment, qui doivent être hypés par la sortie du 2.
Ça fait plusieurs fois que je vois des trucs un peu mignons à l'écran. Ils ont des petites créatures.
Ouais, t'as une petite bestiole qui te suit un petit peu. petit peu.
Ce qu'il y avait aussi tout à l'heure dans une autre vidéo, une petite bestiole ronde, toute ronde, qui roulait au
ça,
sol.
C'est le... je me rappelle, c'est le niveau de la preview. Tu vois, d'ailleurs, c'est génial ça. Ça, c'est le niveau de ma deuxième preview, la vidéo qui vous passe là, Poufy. Ma première preview, j'avais fait donc sur la démo du Tokyo Game Show, un tout petit bout de niveau, qui en fait était un tout petit bout de niveau du premier niveau. Sauf que le premier niveau était 10 fois plus vaste que dans cette démo. Voilà, la démo là-bas à Tokyo Game Show, en une heure je l'avais bouclé, même pas. Et là le niveau, le premier, ça m'a bien pris 3-4 bonnes heures pour le parcourir.
Le tiens, boss qui bondit sur une jambe, j'adore le design des ennemis depuis tout à l'heure.
Donc un petit mot sur le level design. Tiens, maintenant
une dernière question concernant la coop, parce que t'as dit si tu veux jouer en coop, faut que la personne avec qui tu joues ait déjà terminé le jeu. Et si tu joues
le niveau.
Ah, le niveau, d'accord.
Et vu qu'ils sont séparés, du coup, il peut être juste un peu avant toi, finalement, d'accord. Et te filer un coup de main quand même.
Ouais, voilà.
Mais faut que,
ouais,
si tu joues à 3, c'est pareil, il faut que les deux autres aient déjà
Terminé le niveau. C'est-à-dire que toi, quand tu vas faire la demande pour rejoindre un joueur de façon aléatoire, on ne te donnera qu'un niveau que tu as déjà fini.
D'accord.
On va pas t'envoyer dans un truc que tu n'as pas fait. Voilà, voilà.
Donc, c'est ce qui contribue à rendre le truc encore plus simple, parce que si, par exemple, les 3 joueurs qui jouent en coop découvre en même temps le truc, ils décident de 3 potes qui décident de faire l'aventure de H jusqu'à Z ensemble.
Oui, là,
pour
il faut
le
que tu improvises une stratégie, ce qui va pas être le cas pour les 2/3 de ton effectif. Là.
D'accord, je comprends pourquoi la coop, finalement, ça facilite pas mal. En fait, le joueur qui invoque les deux autres finit presque par être spectateur pour le coup.
Ouais, un peu. Mais
parce que si les
comme
deux
t'as, dit,
t'as, t'as deux bêtes qui ont déjà retourné le truc.
Ouais, mais qui vont peut-être te laisser faire une partie du boulot aussi.
Oui,
tu
bien
vois,
sûr. Moi, par exemple, quand j'y vais,
se dire bon,
quand j'y vais, le gars,
je l'aide un peu.
Voilà.
Je lui dis, vas-y, je vais où? Passe devant, vas-y, moi je te suis. Tu vois, par... ou ça dépend. Si je vois qu'il est en galère, vraiment en galère, ça dépend. Et après, pareil, contre le boss, je vais pas non plus. C'est chacun sa part du boulot. C'est moi aussi, je dois recharger ma stamina. Moi aussi, je dois me soigner. Moi aussi, tiens, je vais lui tirer une ou deux flèches, vas-y.
Donc, va l'occuper pendant ce temps-là.
Voilà, exactement. Non. Ouais. Il y a une espèce de. Ouais, de transmission du savoir un peu là-dedans. Voilà.
Un truc très japonais pour le coup.
En termes de difficulté, le jeu est très dur, peut l'être, mais il peut vraiment aussi être plutôt facile. Voilà. Si jamais tu joues en coop tout le long, il te posera pas tant de difficultés que ça. Surtout si tu arrives à choper de bons joueurs. Voilà. Niveau RPG, il est très complet aussi. Alors il y a des milliers de loot, là, Diablo, on va pouvoir modifier son équipement, modifier les skins de son équipement, modifier les caractéristiques de son équipement peut être possédé, nous parler, qu'est-ce qui peut se passer d'autre. On peut changer les mutations yokai qui sont associées au contre-explosif dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a 20 arbres de compétences différents, un par arme, un pour les ninjutsu, un pour le... En termes de RPG, il est extrêmement complet.
Donc très bonne replay value
aussi,
on
va passer du temps dans les menus, on va pouvoir se faire des builds très différents. Là-dessus, il est très bon. On a bien sûr un outil qui nous permet de reset son personnage à n'importe quel moment pour réaffecter les compétences comme on veut, selon les besoins d'une mission. Ouais, tu récupères tout d'un coup, selon les besoins d'une mission ou d'une autre. Non, en termes de RPG, il est vraiment au top. Voilà. Donc, la jouabilité, c'est toujours aussi difficile, mais maintenant, si on est un peu frustré, on peut vraiment se simplifier les choses. En termes de RPG, il est vraiment complet, et ça aussi, ça peut nous simplifier la vie. Reste un aspect à parler sur la jouabilité en elle-même, c'est le level design. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un grand niveau gigantesque comme dans Dark Souls, ou dans Dark Souls, quand tu te retrouves dans le marais au fond, le marais, en fait, en réalité, il était juste au-dessus du château du début. Enfin, bon, bref, c'était un truc de fou. Là, non, c'est des niveaux indépendants. Moi, j'avoue, ça m'avait un peu déçu dans le premier niveau, cet aspect instance, un peu, là. Mais en fait, dans ce deuxième, les niveaux... ils sont vastes, ils sont grands, il y a des recoins partout, des secrets partout, des zones de corruption à lever, enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire. Si on veut rusher contre le boss, bien sûr, on peut y aller et atteindre le boss en 10 minutes, mais en vrai, sinon, on peut passer des heures à les explorer, ces niveaux, à récolter les moindres de leurs secrets, et au final, moi, ça m'a plutôt plu, j'ai vraiment aimé évoluer dans ces univers-là.
Parce que tu parlais de la DA, en plus, qui est vraiment très jolie, donc ça en rajoute justement à cette envie de découverte.
Ah, exactement. Donc là, les fans d'exploration à la Dark Souls, les fans d'exploration à la dure, vraiment dans Nioh 2 ils seront servis, les niveaux valent le coup. C'était un aspect qui m'avait un peu déçu dans le premier, j'avoue avoir un peu fait mon deuil de ça dans le 2, et du coup j'ai vraiment kiffé et ça m'a plu de le faire comme c'était. Voilà. Donc vraiment en termes de jouabilité là-dessus, on est sur presque un sans faute en fait. Hein, voilà. Hein. Le gameplay est bon, les niveaux sont bons, l'aspect RPG est bon. Il y a une durée de vie qui est assez folle. Il y a un aspect coopératif. Vraiment, on est pas mal. L'ADA et oufissime. Bon, juste le scénario, pas génial. S'il y a un aspect dont je peux parler, un autre point négatif peut-être, c'est l'IA des adversaires qui est complètement débile. Il y a quelques petits soucis de pathfinding.
Genre, les ennemis vont rester bloqués des fois dans un mur,
mais
à la limite,
tu sais quoi, tant mieux, ça te rend service. Hein. Moi, un coup, il y a un boss, j'y arrivais pas. C'était au tout début de ma session test, il me défonçait. Il était trop fort. J'avais pas level up, je voulais pas quitter la mission et perdre mon avancement de la mission. Et personne ne venait m'aider. J'avais posé des coupes, mais personne ne venait. Ah. Et au final, je l'ai eu. En fait, il s'est coincé dans une flamme. Voilà. Et je l'ai eu comme ça. J'ai pris une capture d'écran. Je la partagerai peut-être un jour.
Dans le gameplay, il y a une mort tellement idiote. Je sais pas qui jouait, mais c'est
moi, je crois. Hein.
Il invoque un ennemi au feu de camp. L'ennemi l'attaque. Il recule. Il tombe dans un trou et il meurt noyé.
Oh bah là, tu sais. Hier, j'en ai fait une pas mal. Hein, dans Nioh. Hein,
tu l'as remis la Poufy, c'est ça? Ah non, c'était pas ça.
Ouais. Dans Nioh 1, pas le 2, je suis allé hier soir et des gens encore. J'arrive au temple, je vais pour me mettre.
C'est juste. Attends.
J'ouvre mon menu de cinématique, d'émotes, et je fais un pas en avant et je fais un pas dans l'eau. Et je suis mort.
Regarde, je crois que c'est
pas aidé grand monde.
Ouais, non, là,
affronter le revenant.
Ah ouais, c'est ça.
Regarde,
par exemple, il y a des niveaux, ils t'apprennent à faire attention à ça. Dans niveau 2, il y a un niveau.
De toute façon, si ça t'arrive,
c'est un chemin par des dos. Donc il y a un moment, une fois, deux fois, trois fois, ok, je ne recule plus en ayant loqué dans les combats. Voilà, tu vois, ça doit devenir un réflexe en fait.
On voit des ennemis assez puissants là justement dans les combats que t'as capturés. Il y a un endgame, il y a un contenu post-credit.
Oui, bien sûr, quand tu vas finir le jeu, tu vas pouvoir... Alors déjà, il y a les missions en mode... comment ça s'appelle ? Des missions plus dures que les missions principales, tu peux les rejouer en mode crépuscule. Voilà, donc avec un mode plus dur. Et bien évidemment, quand tu auras fini le jeu, tu auras de quoi faire level up encore ton perso, te fabriquer d'autres builds, aller aider les autres gens. Enfin voilà, terminer le jeu à 100%, il y aura probablement du DLC qui débarquera derrière. Enfin voilà. Non, vraiment, en termes de durée de vie, c'est très, très, très
passé un très bon moment dessus.
Moi, j'ai adoré jouer à Nioh 2. Franchement, très très bon, vraiment un très bon jeu. Voilà, je vous conseille, si vous êtes fan de Dark Souls, penchez-vous dessus. Voilà.
Moi je suis pas un fan de Dark Souls, mais ça me fait envie.
Le test est à paraître. Voilà.
Ah, donc tu laisses encore planer le suspense, d'accord.
Bon,
alors vous écoutez de toute façon ce podcast.
Voilà, le test
est paru,
sorti.
Donc le verdict de Johnny est définitif.
Mais c'est très bon. Franchement,
vous l'aurez compris.
Allez, il y a un
indispensable. C'est un grand cru.
Voilà.
Très bien.
J'ai préféré au premier. Et pourtant, j'avais aimé le premier.
Et donc, si même Romain est saucé, t'as plus qu'à le vendre à ton frère, et puis vous voilà parti encore.
Ah, je vais aller négocier avec mes parents pour voir ça.
Eh bien, merci, Dankeschön, mon cher Johnny One. Puisqu'on va basculer dans non, pas tout de suite,
pas
tout à
suite.
Fait, effectivement.
Non.
Heureusement que Poufy est là pour nous rappeler à nos
obligations.
Non, mais
j'allais te le rappeler, t'inquiète. Hein.
Ce n'est
pas si bon présentateur que ça, en fait. Je t'ai fait
parce
des compliments tout à l'heure,
notes.
C'était peut-être un peu trop tôt.
Ouais, j'ai plongé mon regard dans ses yeux et il s'est passé quelque chose.
Eh oui. Non, parce qu'en même temps...
C'est
en
à
fait,
partir
en...
du moment où tu as parlé de poncer...
En même temps que j'ai testé Nioh 2, j'ai testé un autre truc, en fait. J'ai fait deux tests en même temps, tiens, dis donc. Oh là là.
Quel homme.
J'ai testé le back button attachment for DualShock 4. Alors qu'est-ce que c'est ça en français? Ça donne
la fixation dorsale de commande.
Voilà, paye ton nom barbare.
Yep.
Donc la fixation dorsale de commande, qu'est-ce que c'est? C'est le truc que vous pouvez voir sur le plateau depuis tout à l'heure en vidéo. En fait, c'est une petite palette qui va venir se clipser sous la manette du DualShock 4. Alors oui, on disait tout à l'heure, ça arrive en fin de vie de console. Est-ce que c'est vraiment le moment opportun pour sortir ça? Est-ce que la DualShock 5 aura ça de base? Je l'espère, voilà. Parce qu'en fait, en vrai, c'est très très pratique, comme vous allez le voir. Donc c'est un truc qui vient se fixer sous la manette, avec un petit écran au dos qui va nous permettre de faire des réglages très très simplement, et on va pouvoir attacher deux boutons de son choix sur les petites palettes à l'arrière de la manette. Donc c'est une alternative aux manettes un peu chères, genre Razer et compagnie, qui sont vendues 100-150 €. On peut même trouver des modèles plus chers que ça, je crois. Là, ce truc-là coûte 30 balles. On vient de fixer sous n'importe quel DualShock et on transforme ça en manette à palette. Alors à quoi ça sert une manette à palette? Bah à des trucs très très pratiques en fait. Là par exemple je vais vous parler de Nioh 2. Je l'ai surtout testé avec Nioh 2, même si j'ai testé avec pas mal de jeux. Dans Nioh 2, j'ai remappé deux boutons. Alors là, par exemple, Poufy, il vous montre des vidéos de quand on avait fait la vidéo
d'unboxing
et d'explication la semaine dernière. En fait, j'ai même changé depuis ce moment-là mon utilisation. La semaine dernière, je faisais deux choses dans Nioh 2. À gauche, je mettais la potion. Et à droite, je mettais le rechargement de ki. Maintenant, ce que je fais, c'est que à gauche, je mets la potion et à droite, je mets la course. Je vous explique pourquoi. Je vais devoir poser ma manette. Est-ce que tu peux me tenir le micro, Romain, juste deux secondes pour que je puisse montrer aux gens. Et je vais expliquer. Et je vais essayer d'expliquer aussi en même temps, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas la vidéo. En fait, imaginez-vous, vous êtes avec votre pouce gauche, vous venez de vous prendre un coup dans un Dark Souls et vous avez besoin donc de reculer. En même temps que vous reculez, vous avez besoin d'appuyer sur le bouton bas de votre manette. Sauf que malheureusement, votre pouce gauche, il peut pas appuyer en même temps sur le stick gauche et sur le D-pad. C'est impossible. Donc du coup, ce qui se passe généralement, c'est qu'est-ce qu'on fait ? On lâche la manette de la main droite et on vient appuyer sur le bouton, ce qui est pas très safe. Ou alors, on vient appuyer avec son menton carrément. Là non, c'est moins conventionnel.
Il
te
faut une manette adaptive.
Je joue beaucoup avec mon menton, hein. Sachez-le, ou à une main ou ce genre de choses. Souvent je.
Ah, je juge pas tous les gamers.
Et donc là, qu'est-ce que tu peux faire en fait ? Tu continues à reculer avec ton pouce gauche sur le stick gauche, et par contre c'est le majeur qui du coup avec la palette va venir chercher la potion. Tu n'as plus besoin de déplacer ta main droite. Voilà, donc des trucs ergonomiques qui ne l'étaient pas du tout en fait, là deviennent beaucoup plus ergonomiques grâce aux palettes qui sont sur la manette. À droite, même combat. À droite, j'ai configuré la course. Dans Nioh, la course est sur croix. Sauf que vous ne pouvez pas appuyer sur croix et en même temps bouger la caméra dans les virages. Donc qu'est-ce qui se passe dans toutes les vidéos de gameplay que vous avez dû voir de moi jusqu'à présent ? Si je suis en train de courir et que je prends un virage, mon personnage ralentit et se remet à courir à la fin du virage. Là non, je mets la croix avec le majeur sur la palette à l'arrière et du coup, je peux continuer à avoir mon pouce sur le stick droit. Voilà. Donc vraiment, ça règle des petits soucis d'ergonomie que nos manettes peuvent avoir.
Oui, c'est les limitations
exactement.
L'interface. Et alors, tu parlais de la facilité d'utilisation. Puisque tu peux être amené à l'utiliser sur tout un tas de jeux, tu peux très rapidement changer le mapping.
Tu switches d'un profil à l'autre, voilà. Les trois profils sont réglables très facilement en un instant. Tu passes de l'un à l'autre très facilement en un instant.
Donc tu peux avoir des presets pour les jeux auxquels tu joues plus.
La palette, tu peux la débrancher, la brancher sur une manette très facilement, même si ça fait un peu flipper au départ. Voilà. Et donc c'est vraiment un très bon truc, parce que comme je disais, genre dans un Dark Souls-like, tu vas pouvoir courir et prendre une potion en même temps. Voilà, c'est génial, extraordinaire, chose qui n'était pas possible de faire en même temps, puisque nous n'avons que deux pouces. Dans un jeu de bagnole, tu vas pouvoir passer les vitesses. Dans un FPS.
C'est super ergonomique, hein. Je l'avais jamais pris en main le truc. C'est agréable, en plus ça te permet d'utiliser des doigts que tu n'utilises jamais quand tu joues.
C'est en vous voyant prendre la manette que je me rends compte que je suis pas le seul à utiliser que mes index pour les gâchettes en fait.
Ouais, moi aussi, que les index.
Des fois je me demande si des gens n'utilisent pas justement leur majeur pour les boutons.
Moi j'ai du mal à
rester
comme ça sur la manette.
On s'est beaucoup moqué de mes prises en main sur Gameblog, donc je me
dis que. Je pense que ta prise en main de la manette N64 sera moquée éternellement.
Des fois je me sens un peu seul sur l'ergonomie, tu vois.
Ça sera mentionné sur ta pierre tombale.
Mais ouais, cool. Non, c'est vraiment un bon truc. Un FPS, pareil, FPS, tu mets le bouton de corps à corps, tu mets le sprint, le saut ou quoi, ou qu'est-ce. Pareil, parce que dans les FPS, tes pouces, ils sont où ? Ils sont sur les sticks, ils sont pas sur croix, rond, carré ou sur le D-pad. Donc, tu attribues le bouton dont tu as le plus besoin sur ta petite palette. Et vraiment, moi, cet accessoire, il est un peu en train de changer ma vie de joueur un petit peu.
Et puis, un truc tout bête, c'est que comme tu peux configurer L3 et R3 aussi,
ça c'est très bien.
Appuyer sur les sticks.
Oui,
des boutons supplémentaires, mais je trouve pas ça intuitif.
Surtout quand tu dois combiner avec autre chose. Par exemple, si tu dois maintenir ton stick en avant pour courir ou pour avancer, qu'en même temps tu dois rester appuyé sur le stick, c'est pas forcément super agréable. Au bout d'un moment, tu te fatigues un peu et là, pouvoir remplacer les clics sur les sticks par des boutons à l'arrière, je trouve ça très bien.
C'est vraiment très très bien. Alors malheureusement, cet accessoire il est très bien, il coûte pas cher, mais malheureusement en ce moment il est
en rupture.
Et du coup les prix sur internet ça flambe, il est pas à 30€, il est à 100€ en ce moment sur les sites genre Fnac, Amazon. Alors c'est pas la Fnac et Amazon qui le vendent, c'est des
vendeurs marketplace qui se fait plaisir,
qui se font plaisir. Voilà,
donc bon, on rappelle que le prix dans le commerce c'est 29,99€.
Il
faut peut-être attendre gentiment
du restock,
voilà,
j'espère.
Mais par contre c'est bien pratique du coup pour justement s'ouvrir des options et des possibilités supplémentaires.
En plus, il faut se dire, comme tu le disais tout à l'heure, Johnny, c'est que si c'est un produit officiel Sony, si Sony fait ça Maintenant,
c'est peut-être pas innocent.
Ouais. Après, en plus, on sait que, par exemple, sur Xbox Series X, la manette, enfin la manette Xbox One actuelle sera compatible. Donc, si Sony sort ce truc-là maintenant, c'est peut-être un signe avant-coureur d'une rétrocompatibilité de la manette PS4 avec cet accessoire sur PS5, hein. Malgré toutes les nouvelles fonctionnalités dont on nous a déjà parlé sur PS5, c'est en termes de
retour haptique, etc.
Ouais. Ouais. Et donc ouais, c'est peut-être un indice intéressant. Je ne sais pas. Hein, c'est une supposition, une pure
supposition
de ma part.
Écoute, je l'espère parce que comme je t'ai dit, moi, je ne sais pas si je pourrais revenir en arrière vraiment.
Bah, ouais, en tout cas, ça me plaît bien. J'aime bien l'idée.
Je pourrais conclure là-dessus. Vraiment, donc Nioh 2, j'y ai joué comme ça. J'ai essayé de la débrancher, j'ai pas réussi. Maintenant, il me faut.
Tu t'es retrouvé à poil.
Ouais, je me suis retrouvé à poil. Il me manque un truc.
Ah, je veux bien te croire.
Si on peut résumer, l'essayer, c'est l'adopter, du coup.
Ouais, vraiment.
Eh bien, merci, mon cher Johnny.
De rien.
Cette fois, on a vraiment fait le tour de Nioh 2 et de l'attachement dorsal.
Le nom le moins sexy du monde. Quoi.
Voilà. Bref, l'extension au nom bizarre.
Fixation dorsale de commande pour du HK PS4.
Et maintenant, nous allons passer à tout autre chose. On va passer à un petit platformer qui nous vient d'un studio suédois du nom de Retroid. Et ce platformer, on vous en avait déjà parlé au moment de son annonce, c'est Wunderling. Un jeu qui a l'air comme ça assez finalement classique et en fait non.
Alors c'est amusant, moi j'en avais pas entendu parler avant le podcast, j'imaginais un truc allemand, Seconde Guerre mondiale et tout vu le nom.
Pas du tout, pas du tout, c'est un platformer dans lequel le héros s'appelle Carrotman et c'est donc une carotte avec des yeux, un grand sourire et une espèce d'assurance un peu trop prononcée.
Mais j'aime bien le concept parce qu'ils disent que t'es le sous-fifre, t'es le sous-fifre du boss en fait.
En fait tu commences le jeu avec le héros mais tu fais qu'un niveau. Et très rapidement, le goon, donc l'ennemi que vous allez incarner, arrive et se fait défoncer par Carrotman. Mais comme c'est un mob un peu de base, il est ressuscité par la sorcière qui vous sert de boss, de contremaître. Et en fait, elle va vous envoyer à travers tout un tas de niveaux pour défaire cette saloperie de Carrotman, lui enlever ses vies, parce que ça reste quand même un héros de jeu vidéo. Et il va falloir lui prendre ses vies pour le voir mourir une bonne fois pour toutes. Et donc, vous incarnez un ennemi, vous incarnez un méchant. Mais un méchant de base, hein. Vous incarnez un Goomba en fait.
Ouais, c'est ce qu'ils disent, le sous-fifre du boss.
Grosso modo, vous êtes l'ennemi de base en fait dans Wunderling. Et le jeu propose mais plein de subtilités, à commencer par les déplacements, puisqu'en fait votre héros avance tout le temps. Vous ne contrôlez pas son rythme, vous allez pouvoir l'accélérer de temps en temps, mais jamais vous n'allez pouvoir véritablement le ralentir.
Comme dans un Rayman mobile ou ce genre de conneries.
Je vais pas le qualifier d'Endless Runner parce que c'est pas vraiment le style, c'est quand même un platformer 2D, mais vous allez systématiquement avancer, sachant qu'en plus vous perdez au fur et à mesure de la vie, et il faut récupérer en fait des petits items qui prennent la forme de graines de tournesol que vous allez faire éclore sur votre parcours pour justement régénérer la vie en question. Donc en gros, on peut pas prendre tout son temps non plus, il faut réfléchir, mais quand même assez rapidement.
C'est du Lemmings un peu là-dedans.
Il y a un petit côté Lemmings, mais où tu contrôles directement justement ton personnage, et le jeu commence de manière quand même assez classique. Voilà, vous avez des niveaux dans lesquels vous allez devoir éviter de mourir, sachant que vous n'avez pas de compteur de vie, hein, vous êtes un mob de base, donc vous pouvez crever un milliard de fois si vous voulez. Finalement, c'est pas très grave, c'est la réussite qui importe. Et il va falloir d'abord récupérer justement ces petits items si vous voulez compléter le niveau, sachant que dans chacun d'entre eux va en plus se dissimuler un coffre qui est quand même généralement plutôt bien caché, qui est pas visible. Il va falloir fouiller un petit peu les décors pour le trouver, et dans ce coffre se cache à chaque fois un item de customisation. On l'a vu au début du trailer, votre goon au début il est tout nu, il est tout jaune, il est tout bidon, mais vous allez pouvoir en fait le customiser à fond au fur et à mesure de votre avancée. Là vous voyez un petit coffre qui est à gauche, sauf que vous sortez du point de téléportation et vous allez aller vers la droite, et vous allez passer justement une petite porte qui vous empêche de revenir, c'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen de revenir avant justement sur la gauche. Et la customisation du personnage, elle est super chouette, parce que vraiment en 10 secondes t'as complètement modifié l'aspect de ton perso, t'as en plus tout
un
tas...
aussi bien que celle de Nioh 2.
Écoute, moi je me suis éclaté, j'ai passé ma vie à changer le look en fait, et t'as des combinaisons couleurs, chaussures, gants, etc. qui peuvent en plus aller piocher dans des séries qu'on connaît bien. Et par exemple t'as quelques niveaux où t'as une course un peu permanente, moi mon héros j'en ai fait un Sonic, j'ai mis un goon bleu, j'ai mis des chaussures rouges, des gants blancs et une espèce de crête, et du coup t'as un espèce espèce de Sonic the Hedgehog like avec lequel tu peux t'amuser et tu peux changer vraiment à chaque niveau qui passe.
Paye tes droits d'auteur.
Et du coup, ça te donne une raison supplémentaire de justement fouiller les décors pour récupérer les coffres en question, parce que ça marche super bien. Et alors, les mécaniques au départ sont tout à fait classiques, mais au fur et à mesure, ben, ça va se complexifier. On va te rajouter un bouton de course, on va te rajouter une attaque dans les airs qui te permet de défoncer un certain type de pierre, on va te rajouter du wall jump. À chaque monde, ça se complexifie un petit peu, et surtout, le level design devient de plus en plus vénère, parce qu'en fait, à la première lecture, bon, il faut enchaîner quelques sauts, il faut avoir la bonne trajectoire, généralement, c'est pas trop compliqué, mais si tu commences à vouloir jouer les complétistes, et ben là, ça devient beaucoup plus difficile, parce que certains niveaux, en fait, qui avaient l'air tout bêtes comme ça, quand tu veux trouver le coffre, trouver une cassette cachée qui va te permettre de débloquer un bout de l'OST, et trouver une des trois sorties secrètes à base de Warp Zone qu'il y a dans chaque monde, dans chacun des six mondes, et ben là il va falloir commencer à vraiment, vraiment se creuser la tête et des fois à retourner en fait certains niveaux, parce qu'il y a des passages un peu contre-intuitifs où en fait il va falloir vraiment que tu ruses et que tu sois très 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 curieux pour aller voir ce qui se passe. Et j'ai trouvé ça absolument fantastique, parce qu'il y a des puzzles en fait qui sont cachés dans certains niveaux qui avaient l'air pourtant tout à fait classiques, et ça témoigne d'une réflexion absolument maboule autour du level design. Et vraiment, pendant les 6 niveaux qui se composent chacun de 15 mondes, enfin pardon, les 6 mondes qui se composent chacun de 15 niveaux, on va de surprise en surprise, et il y a un nombre de trouvailles absolument incroyable, sachant qu'au bout d'un moment les niveaux deviennent thématiques. Tu vas pouvoir avoir un level où tout va être basé par exemple sur l'obtention de clés. Il va falloir que tu réussisses à récupérer des clés, et puis tu te rends compte à la fin, ça c'est le niveau sur lequel je me suis fait un petit Sonic justement, un niveau où tu cours tout le temps et où tu sautes, et certains niveaux tu vas récupérer des clés pour juste pouvoir sortir, mais tu te rends compte que finalement juste avant la sortie, il y a le petit coffre qui est là et qui est caché derrière trois serrures. Ça veut dire qu'il faut que tu récupères toutes les clés sur le parcours, ce qui est quand même généralement assez difficile, sachant que c'est du one shot hein, tu te fais toucher, tu crèves et tu recommences, même s'il y a quelques checkpoints, et ça démultiplie les possibilités et ça rend le jeu absolument incroyable en termes de profondeur. Il y a un potentiel pour ceux qui vont vraiment accrocher qui est phénoménal, et j'y ai retrouvé beaucoup de l'inventivité des Donkey Kong Country en ce qui concerne les zones cachées justement. On sent que ça a été une des inspirations du studio Retroid, parce qu'il y a il y a des passages secrets où si t'as vraiment poncé les Donkey Kong Country, tu vas dire là c'est sûr, je sais pas comment je vais y aller, mais il y a un truc par là-bas. Des fois on te demande de sauter dans le vide, faut que t'aies repéré que il y avait des pics en bas sauf à tel endroit, donc ça veut dire que si tu prends telle trajectoire tu peux descendre et tu vas trouver une warp zone ou ce genre de truc, warp zone qui vous conduisent évidemment à des niveaux encore plus velus, les niveaux cachés A, B et C de chaque monde. Bref, c'est un petit bijou, Wunderling. Je n'attendais pas une telle inventivité en termes de mécanique, de level design. Là voilà, on voit le menu du premier monde où vous voyez pour chaque niveau, vous avez au moins les graines de tournesol à récupérer, un coffre minimum, et ensuite peut-être une cassette et une warp zone. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et il y a certains niveaux qu'il va falloir refaire encore et encore pour découvrir ces foutus secrets, parce que des fois, c'est complètement dingue ce qu'on vous demande de trouver en fait à l'intérieur. Et en plus de ça, vous avez une petite narration qui est quand même assez sympathique, qui va taper dans le méta en plus la plupart du temps, puisque à chaque fin de monde, vous allez essayer de retirer une vie de Carrot Man, et la sorcière va généralement essayer de vous transformer justement en chameau géant, en dragon. Alors évidemment, c'est pas des phases qui sont jouables, hein. Vous restez, quoi qu'il arrive, ce petit mob. Mais on a à chaque fois des dialogues qui sont assez savoureux, parce que la sorcière, qui est la grande méchante du jeu, est suivie par une vache qu'elle a débauchée et qui lui sert de caméraman en fait permanent. C'est sa Morgane à elle, tu vois. Et elle fait beaucoup d'interventions justement à la télé pour tenir les habitants de l'univers informés de la chasse de Carrot Man. Et il y a beaucoup, beaucoup de blagues méta sur le jeu vidéo aussi, beaucoup de citations à la fin de certains mondes qui sont quand même assez chouettes, assez subtiles, j'ai trouvé. Moi je me suis bien marré, le seul problème c'est que tout est en anglais. Alors ça va pas vous gâcher la vie, parce que ça reste un platformer 2D où il faut sauter, faire des wall jump et tout ça est quand même pas très compliqué, mais il y a en plus un niveau de narration et de blagounette qui est vraiment savoureux par-dessus tout ça. Et si vous finissez justement les niveaux dans leur intégralité, vous débloquez la correspondance en fait de la princesse que vous êtes censé protéger de ce salopard de Carrot Man. Et en plus t'as tout un contexte sur la guerre entre les végétariens et les mangeurs de viande de cet univers, avec voilà toute une réflexion autour de ça. Bref, c'est vraiment très riche. Je me suis éclaté, j'ai passé une semaine entière dessus à ne jouer quasiment qu'à ça. Donc on a 6 niveaux de 15 stages chacun qui regorgent vraiment de trouvailles. Et pour le coup, si vous aimez le platformer 2D, si vous aimez le pixel art qui est en plus vraiment très joli, il y a un choix de couleurs absolument magnifique sur Wunderling, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est vraiment un indispensable de la plateforme 2D. C'est à titre personnel mon premier gros coup de cœur de cette année 2020. Donc ouais, c'est disponible sur Switch et sur PC.
Ce que j'aime bien, c'est qu'ils se sont vraiment donné du mal sur la narration pour un jeu de ce type. C'est pas toujours le cas. Et un autre truc que je trouve assez malin, c'est que ton personnage avance tout le temps. Mais ça, c'est complètement logique quand tu sais qu'en fait c'est le sbire de base du boss du jeu, parce que dans les Mario par exemple, les Goombas ils marchent non-stop sans raison.
La programmation c'est dans
l'avance. Voilà, c'est ça. Donc ils ont joué de ça pour le concept de base de leur truc, et c'est effectivement très malin. J'aime beaucoup. J'aime bien les jeux dont vous parlez cette semaine tous les deux.
L'envers du...
Vous avez eu le droit à des meilleures choses que moi.
Ça me fait marrer, c'est l'envers du décor un peu.
Oui, il y a un peu ça.
Ouais.
C'est un peu le jeu vidéo côté méchant,
du côté
en fait.
Des méchants,
et où
bien.
Tout n'est pas si simple finalement, et où en plus le héros qui sourit tout le temps, il a l'air sympathique comme ça, mais en fait c'est quand même un sale con quand tu commences à gratter un petit peu. Il est trop sûr de lui finalement, ça cache des trucs. Il y a ce côté critique un peu sympa de l'archétype du héros de jeu vidéo.
Ça me rappelle ce comic strip que j'avais vu sur internet il y a des années où il te montrait le royaume champignon, mais du point de vue d'un Goomba, tu vois, où c'était une famille de Goomba qui était en train de marcher tranquillement dans le truc, et Mario qui vient, qui les piétine, papa, la famille qui se fait massacrer.
Lui, il est déjà très loin. Ouais. Just doing my job.
Ouais, la famille qui a rien demandé, qui était tranquille et qui se fait massacrer par ce moustachu sorti de nulle part, c'est assez malin.
Et la narration est très chouette parce que vraiment jusqu'à la fin, jusqu'au dernier niveau, il joue vraiment avec tous les codes du jeu de plateforme et du boss de fin, etc. Enfin voilà, c'est pour moi c'est vraiment un jeu à ne pas louper.
Bah tu vois, ça c'est le genre de, c'est un exemple de jeu. Si Limited Run ou I Am 8-Bit ou quelque chose se décide à faire une petite cartouche, je pense que je craquerai. Voilà. Mais à bon entendeur.
Voilà, ça, si Limited Run, Limited Run nous écoute, merci les gars.
Après c'est le genre de jeu qui sont capables de sortir.
Ah, moi je vous dis pas merci Limited Run, hein. Je vous déteste.
Pourquoi?
Parce qu'ils claquent de la thune chez
eux,
voilà,
ah oui. Déjà, et puis tous en plus mois. Après les gens n'arrivent pas à les avoir.
Je dois te rappeler la montagne de colis toutes les semaines qu'il y a sur le bureau de...
Je sais pas forcément d'où ça vient, je sais que ça vient souvent de PlayAsia. Mais
non, il n'y a pas de montagne de colis, arrêtez.
Ouais, d'enveloppe si tu veux.
Ouais.
On reçoit beaucoup de trucs pour toi, tu sais. Hein.
Oui.
Ouais, après, si vous voulez écrire à Johnny One, écrivez à la rédaction.
J'ai jamais vu quelqu'un recevoir autant de colis que Johnny One et ensuite dire ah, j'ai pas de thunes, etc. Le mec, je sais pas combien de centaines
non,
d'euros
arrêtez,
tous les mois.
Ça, j'en achète beaucoup moins.
On y a droit tous les mois.
J'en achète beaucoup moins.
Bref.
Et on reçoit beaucoup moins de trucs.
Après ces réjouissances d'un côté comme de l'autre, on va passer à quelque chose de beaucoup moins sympathique, mon cher Romain, puisque c'est toi qui as eu l'occasion de tester One Punch Man, A Hero Nobody Knows.
Alors tu vois là, Wunderling, comme tu dis, c'est du jeu actuel qui se donne un aspect de jeu rétro. One Punch Man, c'est du jeu rétro involontaire en fait. C'est un autre cas de figure. Et ça m'ennuie. Ça m'ennuie vraiment parce que d'une, j'aime beaucoup One Punch Man. C'est une série qui me fait bien marrer. Je trouve ça vraiment chouette. Et de l'autre, les différentes prises en main que j'avais pu faire à la Paris Games Week ou à la session preview d'il y a quelques semaines, j'avais trouvé ça sympa.
Je me souviens qu'à la PGW, tu étais plutôt enjoué de ce que t'avais vu.
Surtout que j'avais pu essayer le concept de Saitama qui peut effectivement one-punch n'importe qui dans le jeu. Et j'avais trouvé ça original. Mais le problème de la dernière session preview, c'est que comme toujours, il te sélectionne un passage très précis sur une durée assez limitée,
bien rythmé,
comme ça tu peux pas vraiment te rendre compte de ce que propose le jeu dans son ensemble. Et One Punch Man, c'est Bandai Namco dans ses pires travers. En fait, on sait que d'un côté ils sont capables, quand ils se mettent sur un Fighters ou sur un, en termes d'adaptation de manga, hein, j'entends bien, quand ils se mettent
un peu de leur spécialité quand
voilà,
même
sur un Fighters ou sur un Kakarot, un truc comme ça, proposer quelque chose qui est vraiment chouette. Et là t'as l'inverse, c'est
on est du côté Senseiya là.
C'est tellement dommage parce que c'est une série qui mérite bien mieux que ça. Vous vous retrouvez avec un jeu, j'ai fait mon test globalement sur PS4 Pro, j'en revenais pas, tellement ça c'était moche. ça, t'as un petit hub dans lequel tu te déplaces pour aller de mission en mission, etc.
Aussi moche que Jump Force.
Pire.
Pire. Oh.
Non, mais sincèrement, c'était pire parce que Jump Force, le vrai problème, c'était le choix de design des personnages. C'était la façon de les dessiner qui avait été, de les modéliser qui avait été déterminée. Là, la modélisation et tout, elle est fidèle
au manga.
Elle est fidèle à la série, au manga ou à l'animé. Et là, le problème vient ailleurs. C'est que par exemple, t'es sur PS4 Pro, t'es dans le petit monde hub. Tu vas devoir tourner un virage pour aller d'un coin à l'autre de la map. Et là, t'as le framerate qui passe à quoi, 15 FPS ou peut-être moins parfois.
J'allais dire, si tu veux tourner pendant que t'es en train de courir, il faut une fixation dans la salle de commande.
Non, mais t'as des pauvres arbres. T'as un décor qui est quand même assez pauvre. Et t'as les pauvres arbres qui apparaissent au dernier moment.
Ça fait quand même ramer le jeu.
Ouais, les PNJ que tu croises sur la map, genre tu vois sur la carte qu'il y a un PNJ qui a une mission, une quête annexe pour toi. Tu le rates des fois parce qu'il met tellement longtemps à apparaître que t'as l'impression que t'es pas au bon endroit en fait. Donc t'es obligé de regarder la map, de te mettre là où il y a le point d'intérêt et attendre 5 secondes. Que le personnage apparaisse.
On va rappeler pour ceux qui ont pas l'image que c'est quand même à la base
jeu
de combat.
Là, je parle pour la
ouais, les, moi, je suis curieux du gameplay du jeu de combat.
Les phases d'exploration pour le combat, en fait, c'est de l'arène, enfin du combat dans des arènes en 3D avec des touches assez classiques. Tu vois, t'as une touche faible, une touche forte, une touche de saut, une touche de bloc, et après t'as, en faisant gâchette et croix, tu peux recharger ton énergie, t'sais, ton ki un peu à la Dragon Ball. Ensuite c'est L2 plus triangle, L2 plus carré, etc.
C'est vraiment une jouabilité Bandai Namco, quoi.
C'est ultra ultra
jeu de baston, on retrouve ça dans Naruto, dans Dragon Ball,
voilà,
dans tous
les
jeux.
C'est la base.
Dans les Chevaliers Zodiac aussi.
C'est la base. Après, t'as quand même des spécificités, parce que déjà, si tu décides de prendre Saitama dans l'équipe, il est pas là tout de suite. Mm-hmm. Donc t'as un décompte.
Sinon, ça plie un peu justement les matchs.
Voilà, t'as un décompte, un compte à rebours qui fait que, en fait, tu peux avoir des matchs en 1 contre 1, 2 contre 2, ou 2 contre 3, 3 contre 3, ou 2 contre 3, etc. Mais si t'as Saitama dans un match en 3 contre 3, par exemple, et que comme lui, il arrive après, t'as deux personnages qui sont dispo pendant la grande partie du combat. Là, le défi pour toi qui a pris Saitama, c'est de faire survivre, soit de gagner directement, si t'es suffisamment fort pour le faire, soit de tenir jusqu'à ce que Saitama arrive, parce qu'une fois que lui, il est là, il va peut-être rater son premier coup, mais si après, les coups qu'il subira, ça lui fera quasiment pas de dégâts, et ensuite, genre un pauvre coup de poing, et c'est plié, tu vois. En plus de ça, t'as des événements en cours de combat, parce que le monde de One Punch Man, il y a des invasions de monstres sans arrêt, des catastrophes météorologiques, etc. Donc parfois, en plein combat, tu vas avoir une chute de météorite sur l'aire de combat qui va faire énormément de dégâts, ou t'as un ennemi un ennemi taupe qui va venir popper, qui va t'emmener sous le sol et te bloquer pendant quelques secondes.
Donc les décors sont moches, mais au moins,
il se passe des trucs. Les décors sont moches, mais en plus il y en a pas beaucoup. Alors là, voyez, c'est Saitama en pyjama. Donc lui, c'est un personnage particulier parce que c'est le Saitama cauchemar et qui est pas débloquable tout de suite, sauf si t'as précommandé le jeu. Lui, il est faible en fait. C'est comme c'est pas le vrai Saitama. Lui, tu peux l'utiliser en combat pour utiliser ses techniques sans plier les combats en un seul coup. Mais
c'est le Saitama legit.
Voilà, mais le Saitama normal, lui, en One Punch, et c'est.
Mais
c'est
du coup, en termes de gameplay, ça apporte quoi d'avoir un personnage dans un jeu de combat qui termine les combats en un coup? Mis à part le fait qu'il y ait la temporisation, est-ce qu'il y a des moments où tu ne joues que lui, par exemple?
Alors, dans la campagne solo, on va dire, tu crées ton personnage. Donc, tu as un outil de création de perso, parce que tu sais, tu as la ligue des super-héros dans l'association des super-héros dans One Punch Man, et donc toi tu crées un héros lambda qui rentre dans l'association, qui est au rang C, donc le plus faible, et qui va devoir gravir des échelons en réussissant des missions, etc. Et ton histoire, en fait, elle vient se greffer à la saison 1 de l'animé. Donc en fait, tout ce que toi tu fais, ça se fait en parallèle à l'évolution de l'histoire officielle de One Punch Man. Et donc il y a des moments où ton histoire va venir se croiser celle de l'animé, Et donc, bah, y a des moments où tu vas devoir incarner Saitama. Mais heureusement, tu ne l'incarnes pas très souvent pour garder le côté un peu exceptionnel de la chose. Parce que quand tu incarnes Saitama, de toute façon, le combat, il est plié tout de suite. Quoi. Tu,
ouais. Tu du mets coup, il n'y a, et... a pas de multijoueur, en fait, sur ce jeu.
Si, tu as du multi en ligne.
Alors, c'est quoi? On prend tous les deux le personnage?
Non, parce que...
Et on fait un combat au premier qui met... Tu sais, tu peux le faire dans Soul Calibur, tu mets la vie à zéro.
Le premier, c'est... En fait, si les deux joueurs prennent Saitama, c'est... Il fait des dégâts, il se fait à lui-même des dégâts normaux en fait. Donc,
ouais, ça devient la version Dream, c'est ça?
C'est... Non, même pas, il garde sa tenue normale, mais quand il s'affronte lui-même en fait,
ça devient un combat équilibré.
Ça devient un personnage lambda. Mais de toute façon, dans les réglages, quand tu décides de faire une partie en local ou que tu joues en ligne, tu peux choisir, c'est une option à part en fait, tu peux activer Saitama ou pas, le rendre jouable dans le jeu. Parce que après, tous les autres persos ont leurs propres techniques spéciales qui viennent de, l'anime.
Tu peux désactiver le personnage principal,
voilà,
du jeu quand
tu
même.
Tu peux demander à Saitama. Bah, finalement, le personnage principal, là, enfin, c'est le personnage principal
de la série, mais pas du jeu.
C'est le personnage que tu crées. Alors, l'outil de création de perso, il est complètement débile. Tu peux faire. Moi, j'ai créé un perso complètement idiot avec des bouées de sauvetage partout sur lui, etc.
C'est, que tu as mis sur la tête à un moment donné.
Au début, j'ai. Ouais, mais en fait, c'est ça, les accessoires, t'es pas obligé de les mettre sur l'endroit pour lequel ils ont été créés. Par exemple, les lunettes de soleil, tu peux les accrocher au coude, ou enfin, tu peux faire un truc complètement débile. Quitte à faire du clipping sur les collisions, enfin, pas du clipping, mais des bugs de collision, c'est volontaire, tu vois, c'est tout ça pour te permettre de faire quelque chose d'idiot. Mais là où le bas blesse véritablement, outre l'aspect technique qui est quand même archaïque au possible, c'est que le mode histoire, il est d'un remplissage mais horrible. T'as des missions et des missions et des missions et des dizaines de missions annexes où t'enchaînes des combats les uns derrière les autres, et t'es même pas à la moitié de la campagne solo, t'en as marre déjà en fait d'enchaîner ces combats tout le temps qui se suivent et se ressemblent. En plus, t'as une vingtaine de personnages tirés de la série, mais tous les autres personnages que tu vois, parce que faire un truc long comme ça avec 20 personnages, ça nécessiterait d'affronter toujours les mêmes. Ce qui fait que non, t'affrontes aussi des personnages créés presque aléatoirement par le jeu, mais pareil, ils se ressemblent énormément très vite et ils sont pas très inspirés visuellement, donc tu t'ennuies, mais vraiment très vite. Et c'est,
t'enchaînes des sacs à PV et les uns après les autres.
Ouais, c'est ça. Et tu t'ennuies. Clairement, c'est ça. Et en plus de ça, l'autre gros problème, parce que si t'avais une narration qui est trop cool, une histoire super marrante, tu dirais bon bah je passe outre pour me marrer avec.
Ouais, au moins entre les deux, j'ai des phases rigolotes.
Avec l'histoire. Là, la narration, c'est des fois t'as des personnages fixes qui vont faire des petits émotes à la jeu japonais d'il y a 10 ans, tu vois. Parfois, ils sont filmés de dos, donc tu les vois même pas bouger. Parfois, tu les vois pas du tout. Donc, t'as des voix, t'entends les personnages se parler et t'as un plan sur les arbres au fond de la map. Et le pire que j'ai remarqué du truc, mais là, je me suis dit, mais ils ont osé faire ça. À un moment, t'étais dans une... Tout ça pour pas avoir à animer les personnages. J'étais dans une cinématique assez importante, en plus, dans l'histoire, après un combat. Donc les personnages commencent à se parler, etc. Et là, ça a switché sur des images fixes, hein, du dessin animé. Ce qui fait que genre la cinématique s'interrompt. Là, t'as une photo fondue au noir, une deuxième photo, peut-être une troisième et tout. Et la cinématique c'était ça. Et il y a aussi des moments où tes dialogues en fait sont faits par téléphone portable. Donc genre après une mission, t'as le téléphone portable du héros qui sonne, donc son smartphone qui apparaît à l'écran, et là t'as une PNJ qui te parle, donc son dialogue est enregistré, mais genre tu la vois pas.
C'est l'encyclopédie des trucs et astuces pour pas animer des personnages dans l'adaptation.
Ils sont allés piocher dans le visual novel. Là.
Ils ont tout, mais même dans les visual novels, c'est plus animé que ça. C'est là, ils ont tout fait pour limiter le truc au maximum. En plus, ouais, la ville, il se passe rien. Les seules quêtes annexes qu'on va te donner, c'est soit d'aller chercher un truc et pour ensuite le ramener au point de départ, ou alors d'aller affronter tel ou tel mec. Que t'as l'impression d'avoir affronté déjà 50 fois, oui, le délinquant machin avec sa grosse moustache et sa casquette.
Donc je vais quand même te demander si t'as trouvé un peu de profondeur dans le gameplay côté baston, mais vu
bah
ce
alors
que tu me racontes.
Ouais, le seul, on va dire, la seule profondeur que tu peux trouver, c'est que si tu te donnes la peine, tu peux essayer de créer des combos un peu stylés, parce qu'en plus l'arène donc a un format délimité avec des murs invisibles, et certaines attaques vont envoyer valser l'adversaire et potentiellement le faire rebondir. Donc tu peux essayer de créer des combos de juggle, les faire durer un peu. En plus, quand tu joues en équipe, tu peux switcher d'un personnage à l'autre, mais aussi tu peux l'appeler juste pour qu'il vienne attaquer un coup.
En support,
donc
ouais.
Tu peux essayer de faire des juggles soit tout seul, soit essayer de jongler avec ton partenaire et d'enchaîner, etc. En se donnant un peu de mal, tu peux commencer à faire des trucs un peu stylés. Et tout. Après, le gameplay de base, pour des fans de jeux de baston très pointus, ça va leur sembler ultra simpliste. Mais si ça te dérange pas et que tu te donnes la peine un peu de travailler ça et d'apprendre les réactions des différents coups spéciaux, parce que tous les coups spéciaux n'ont pas le même effet sur tous les personnages, etc. Donc, tu peux un peu t'amuser avec ça. Mais le problème, c'est que t'en as marre bien avant, en fait. Tu, au bout d'un moment, t'arrêtes quoi. Et le pire, c'est que comme il est question de niveau, il y a un petit côté RPG où les statistiques, déjà les coups spéciaux, au début, quand tu commences la campagne solo, t'en as même pas. Donc ensuite, tu vas réussir à débloquer un slot pour un coup spécial. Après, tu vas débloquer un deuxième slot pour un coup spécial, mais t'auras pas forcément un coup spécial à mettre à cet endroit-là. D'accord. Donc avant d'avoir suffisamment de techniques à utiliser, il faut attendre super longtemps. Pareil pour les objets qui vont te servir à décorer changer le look de ton personnage. Ils mettent super longtemps à arriver parce qu'il faut les acheter, etc. Donc avant de vraiment pouvoir faire le perso que tu as envie de créer avec les techniques que tu veux, etc.
Bah, t'as déjà arrêté de jouer.
Ça va mettre du temps, surtout que, autre chose, t'as plusieurs classes de personnages. T'as les personnages qui vont utiliser des armes. T'as les personnages qui vont utiliser les techniques de télékinésie, etc. T'as les personnages puissants. Et à chaque fois, quand tu débloques une nouvelle classe de perso, pareil, elle est au niveau minimum, donc il va falloir augmenter le niveau en faisant tous ces innombrables combats de remplissage pour pouvoir débloquer des techniques, etc. C'est long et pas intéressant, donc c'est dommage, parce que l'univers de One Punch Man se prête vraiment bien à faire un jeu vidéo marrant. Il y a des petits éclairs, des petits trucs rigolos par moment, mais globalement, tu retires deux choses de ce jeu-là, c'est que c'est ultra moche et c'est chiant à mourir.
Tiens, sur le fait que ce soit chiant, j'ai apprécié que Carotte sur le fait qu'il ne t'inonde pas, ne te noie pas de missions secondaires.
Ça, j'ai non, il n'y en a pas, il n'y en a pas tant que ça.
Il n'y en a pas tant que ça, oui.
Et moi, ce jeu-là, il me déçoit en partant du principe où le principe du manga est assez fou, hein, l'homme qui détruit en un point.
Le chemin inversé, en fait.
Ouais, voilà, ils auraient dû trouver un concept, genre comme tu vois Wunderbar où tu joues les méchants. Ouais, là c'est le pognon,
Wunderbar.
C'est un jeu qui
ouais,
est
non,
là
Wunderbar,
pour
c'est
le pognon
en allemand, mais...
voilà. Mais en vrai là il y a pas de concept dans le jeu.
Ouais, et ça demande du temps et du pognon ça.
Ouais, l'idée principale du truc, et ça aurait pu faire un truc sympa. On aurait pu faire un truc décalé comme on joue un méchant de jeu vidéo.
Oui.
Il y aurait eu j'ai pas l'idée là. Moi je l'ai pas. Hein. Sincèrement.
Ah bah la dis pas, sinon on va te la piquer. Hein.
Ouais,
donc, fais attention.
En plus,
hein.
Je vais faire gaffe, je vais y réfléchir, j'appellerai Bandai Namco après dans la semaine. Non, mais en vrai, je suis sûr qu'il y a une idée qui serait géniale à faire autour de One Punch Man. Là, non, ils font un jeu de combat où le concept même du point seul n'est pas respecté en fait. En vrai.
Bah si, il est respecté, mais il faut arriver à la.
Mais c'est un peu pourri comme utilisation, tu comprends. Ils auraient vraiment pu faire un truc plus marrant que ça.
Ça, c'est pas ce qui m'a gêné, parce qu'en plus, si tu joues par exemple contre une équipe qui a pris Saitama, toi ton but ça va être de faire le plus vite possible pour
finir l'affrontement
pour
et remporter la victoire.
Finir l'équipe adverse avant que Saitama ne déboule. Donc ça, je trouvais qu'ils ont utilisé de manière originale. J'avais de mémoire pas vu de jeu où t'avais un héros comme ça dans un jeu de baston qui est capable
de plier le match.
De one punch n'importe qui. Et après, le système de héros qui arrive en cours de combat, il est applicable aussi quand personne joue Saitama. Par exemple, quand tu fais du combat en 3 contre 3, t'as le choix de faire en sorte que les deux équipes soient au complet dès le début, ou là où tu peux, comme dans n'importe quel jeu de combat, switcher d'un personnage à l'autre, ou tu peux demander à ce que les héros arrivent au fur et à mesure. Donc là, c'est pareil, si tu fais du 3 contre 3, mais que les deux personnages commencent en 1 contre 1, s'il y a un des deux personnages qui meurt avant que son premier coéquipier arrive,
ouais, le match
est terminé plus rapidement. Le combat est terminé. Et à l'inverse,
donc,
si tu fais des
soupçons de stratégie,
un soupçon de survival.
Ouais. Si tu fais des beaux combos, etc., le compteur va diminuer plus vite, tu vas perdre genre quelques secondes et permettre à ton coéquipier d'arriver plus rapidement. Donc il y a quelques bonnes idées, c'est juste que ils avaient pas assez de contenu Ou alors ils se sont pas donné de mal pour en créer. Il
fallait assez... sortir un produit dérivé et voilà.
Pas assez... Oui, voilà, c'est ça. Pas assez de choses à pour remplir et le... Et la technique, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse avoir un rendu tel que celui-ci sur PS4 dans la dernière année de sa vie, quoi. Je pense même qu'il y a des jeux, par exemple les Ultimate Ninja Storm ou des trucs comme ça qui sont sortis sur PS3, étaient plus jolis, plus aboutis techniquement que One Punch Man. C'est incroyable. Là, tu vois, le héros de... Le héros de ton, du jeu que tu as testé, enfin l'anti-héros s'appelait Carrot Man. Là, t'as l'impression que Carrot Man, c'est Bandai Namco qui essaye de te la, de te la mettre bien avec ce jeu, quoi. C'est vraiment Bandai Namco dans ses pires travers, quoi. Vraiment. Dommage.
Donc vous l'aurez compris, on ne vous conseille pas du
coup, c'est 4,
hein. One Punch Man, ouais. Hero Nobody Knows, c'est 4 sur 10. Ouais.
Et c'est un gentil 4, non ?
On parlera du coup de la suite avec le futur producteur, Johnny Wan, qui a donc déjà des idées pour développer la suite, qui sera, on l'espère, un petit peu meilleure.
A million seller.
Oula, comme tu t'avances. En attendant de découvrir tout ça, eh bien malheureusement, parce que Traz n'est pas là, nous ne pourrons pas traiter le thème 666 qu'il avait pourtant mis au sommaire de ce podcast.
Exactement.
Donc désolé mon cher Traz, nous sommes encore en vie, hein, malgré tout. Du coup, on peut
le lire quand même son thème.
Ah bah vas-y.
Le thème, c'était le Corona Tiepi nous tuera tous, les amis.
Avec trois points d'exclamation, voilà.
On a quand même pris la petite fiole de virus pour mettre sur la table, elle est
voilà,
toute petite si vous pouvez la voir.
Il faut savoir que généralement, c'est plutôt comme ça que les thèmes sont notés dans les documents officiels du podcast, surtout quand ils sont repris par Traz. Bah,
si on peut quand même dire, faites attention, lavez-vous les mains, ne toussez pas sur les gens.
Ouais, normalement. Dans votre mais je crois que normalement, il n'y a pas besoin de le dire,
ouais,
il me semble.
Mais c'est ça, moi j'étais étonné de voir.
Ça fait partie des réflexes que tu as normalement.
Ouais, voilà.
J'ai été étonné de voir qu'il y a des vidéos où ils nous apprennent à nous laver les mains. Pour moi, il me semblait que c'était quoi, 3 ans ? Peut-être de même, non, même pas. Ma fille, ma fille qui a 2 ans et demi, je lui apprends à se laver les mains depuis un
tu
certain
sais,
temps.
Tous les
déjà,
enfants ne sont pas de très bonne volonté quand vient le moment de se laver les mains.
Mmh. Le moment de l'adolescence aussi. On enchaîne du coup avec nos traditionnelles rubriques pour conclure ce podcast, à commencer par l'anniversaire de la semaine. Et pour le coup, c'est un anniversaire qui nous parle un petit peu à tous à des degrés divers et variés, puisqu'il y a 10 ans, le 9 mars 2010, sortait partout dans le monde Final Fantasy XIII. Oh. Le mal-aimé.
Et non pas Final Fantasy XIV.
Et non pas Final Fantasy XIV qui, lui, continue avec Shadowbringers Kong. Salut évidemment Alex qui se reconnaîtra. Et le 13e épisode tant attendu, dont le développement avait commencé historiquement sur PS2 et qui avait ensuite été porté sur PS3 par Square Enix devant l'accueil phénoménal de la démo technique de Final Fantasy VII sur PS3, qui n'était à l'époque évidemment qu'une démo technique. Du coup, ça sera le premier Final Fantasy sur les consoles de nouvelle génération, les consoles HD, et c'est un jeu qui a fait couler beaucoup d'encre à différents niveaux. D'abord pour les plateformes sur lesquelles il est sorti, puisque Romain, tu nous rappelais justement une annonce qui avait déjà beaucoup parler.
Bah moi, je suis pas un grand joueur de Final Fantasy. Ma connaissance de la série se limite au 7, hein, comme pas mal de gens. La conférence Xbox de l'E3 2008, alors ils avaient fait une petite mise en scène. Ce très charismatique Don Matry qui était en scène en train de blablater. Là, t'as Yoichi Wada, le président de l'époque de Square Enix, qui arrive et qui lui tapote derrière l'épaule, genre très espiègle. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, on a ça aussi à annoncer. Et là, ils te balancent le trailer de Final Fantasy XIII et ils annoncent sortie simultanée du jeu sur PS3 et Xbox 360.
Quelle trahison !
Bah, justement, sur des forums américains, ils avaient appelé ce jour le Betrayalton, donc la trahison, on va dire, de Square Enix qui quittait l'exclusivité PlayStation pour les épisodes principaux numérotés de Final Fantasy. Parce que
Square Enix qui était mécène avant, qui ne faisait pas des jeux pour l'argent, mais qui
n'avait pas trahi Nintendo d'ailleurs.
Qui supportait des constructeurs comme ça de génération en génération.
Donc il n'avait pas trahi Nintendo pour faire passer FF7 de la N64
à la PlayStation.
Donc Square Enix qui décide de faire de l'argent et donc de sortir son jeu sur plusieurs plateformes, parce que certains n'ont pas supporté.
Dont une plus facile à programmer que l'autre, en plus.
Oui, parce que à l'époque, c'était habituel d'avoir des petites comparaisons. Bon, comme on a eu cette génération avec la PS4 et la Xbox One, sauf que la génération précédente, c'était les avantages étaient inversés. Et ça tournait généralement un peu mieux sur 360. Mais bon, là, oui, c'était peut-être une des annonces les plus marquantes, si c'était l'annonce la plus marquante de la conf Xbox de l'E3 2008, il y a 12 ans déjà.
Ouais.
Et loin du coronavirus et des menaces d'annulation.
Et les gens toussaient comme ça librement sur scène.
Oui, sans inquiétude.
C'était une autre époque. On précise quand même que du coup, le jeu est sorti le 19 décembre 2009 au Japon, uniquement sur PS3 au départ. Il aura fallu attendre de nombreux mois pour que le jeu sorte sur l'Xbox 360 japonaise. Mais nous,
c'était en même temps.
Ouais. On l'avait eu ici, effectivement, en même temps sur les deux plateformes. Toi, Johnny, t'avais fait la soirée de lancement sur
PS3. Ouais, c'était pas une soirée de lancement, c'était une journée de... J'étais pas journaliste à l'époque, hein. J'étais simple.
Et toujours pas d'ailleurs.
J'étais simple blogueur, même pas à l'époque. Et en fait, on est parti, il y avait une séance de dédicace. On est parti donc à la FNAC des Champs-Élysées pour tenter de se faire dédicacer notre jeu. On y était avec l'ami Kaminos, tiens.
Et Yoshinori Kitase qui était fort. Présent pour
ouais,
la sortie d'FF13 quand même.
Il y avait donc Kemiko Koryo. Voilà, présent pour la sortie d'FF13. Nous, on était là à 10h du matin à faire la queue, le planton devant la FNAC des Champs pour aller se faire dédicacer notre jeu. Et donc, on a pu y aller. Moi, j'ai pu faire dédicacer mon jeu. Alors, c'était un peu la panique parce qu'on était dans les tout premiers, mais au final, on s'est fait griller par des
Français.
J'en sais rien.
Non, par le mec qui attendait la PS3, tu te souviens, qui était tout seul.
J'en sais rien. Enfin, bon,
il était toujours là.
Du coup, on s'est fait griller dans la queue. Il a fallu un peu gueuler pour. Pouvoir avoir nos signatures, en fait, tout simplement. Et donc, moi, j'ai pu faire signer le jeu. Et l'ami Kaminos, lui, il avait carrément signé sa console. Il avait ramené sa PS3.
Console qui est voilà. En photo sur ton blog, justement.
Non, pas sur le mien, sur le tien.
Voilà. Ah, bah, j'ai refait un tour tout à l'heure. Il y a une PS3 FF13 dédicacée. T'avais dû profiter à l'époque, justement, de
moi,
cette sortie.
J'avais que le jeu.
Alors,
moi,
on
je
rappelle,
l'ai pas ramené aujourd'hui, le jeu.
Le jeu s'inscrivait quand même dans une compilation au départ qui s'appelait la Fabula Nova Crystallis, qui était censée réunir tout un univers, justement, celui d'FF13 dans plusieurs titres, celui-ci évidemment. Un certain Final Fantasy Versus 13 qui est, comme vous le savez, devenu Final Fantasy 15 et Agito 13 qui devait sortir sur PSP qui lui est devenu Type 0 qui est effectivement sorti sur portable et qui est ressorti même sur PS4 dans une version un petit peu reliftée. Et si le jeu a fait couler aussi beaucoup d'encre au moment de sa sortie, c'est parce que sa structure était quand même assez différente de tous les Final Fantasy jusqu'à présent. D'abord très linéaire pendant une vingtaine d'heures avant d'arriver sur une nouvelle ère de jeu, la planète Cocoon, où a priori tu t'es arrêté, Johnny, c'est ce que tu me confiais tout à l'heure.
Moi j'ai fait le couloir et je me suis arrêté à la fin
du couloir. Le moment
où
d'un coup le jeu s'ouvre et te dit bah voilà, maintenant grosso modo tu sais jouer. Ça fait 20 heures qu'on t'apprend le système de combat qui est quand même très particulier. Maintenant tu te démerdes, tu vas aller chercher tes quêtes toi-même, tu vas composer ton équipe comme tu l'entends, parce qu'il faut quand même bien dire que le système de combat d'FF13 était assez révolutionnaire pour l'époque. Certains ne l'ont pas du tout apprécié, moi je l'ai trouvé vraiment fantastique, puisque d'un coup il y avait plein de paramètres dont on n'avait plus à s'occuper, notamment les points de magie, ce genre de truc. On était plutôt le chorégraphe en fait extérieur qui mettait en scène l'affrontement en switchant les presets en fait de votre trio de combattants, et ça avait un côté assez jouissif en fait, parce que quand ta stratégie fonctionnait, et il fallait que la stratégie fonctionne parce qu'on ne pouvait pas bourriner les ennemis, ne serait-ce que les mobs de base, comme un gros bourrin, une tête brûlée, il fallait adopter une technique parce que, bah, comme dans la démo de FF7 Remake que tout le monde a pu essayer, il fallait d'abord staguer en fait les ennemis, donc breaker une espèce de barre de défense avant de véritablement pouvoir infliger des dégâts. Et donc il fallait un preset pour justement faire monter la première barre et switcher pour la deuxième et faire vraiment diminuer la vie, sachant qu'il fallait entre-temps passer par des phases où il fallait soigner justement ses personnages. Il y avait énormément de choses à faire et moi c'est vraiment un système de combat que j'ai trouvé délicieux, et du coup je suis évidemment content qu'il l'ait gardé à minima dans FF7 Remake.
Il y avait 13, ils ont fait 13-2 aussi de mémoire.
13-2 et même 13-3.
Alors du coup ils l'ont pu appeler 13-3, c'était effectivement Lightning Final Fantasy Returns. 13-2 et c'était Lightning Returns après, qui lui s'inspirait plutôt de Majora's Mask, parce qu'en gros t'avais une durée limitée dès le départ pour finir le jeu. Tu pouvais proroger un petit peu au fur et à mesure. Mais
Lightning avait des costumes de chaton.
Oui, parce que c'était n'importe quoi, oui. Lightning Returns. FF13-2 était assez sympa aussi, c'était plus structuré à l'ancienne, on va dire, avec des petites zones de jeu un petit peu différentes et des voyages dans le temps. Mais là voilà, FF13, une aventure un peu bicéphale, avec d'abord un long couloir d'une vingtaine d'heures pour vous apprendre toutes les subtilités du système de combat avant d'arriver sur une partie beaucoup plus ouverte. Et surtout des personnages quand même assez emblématiques, mine de rien, ouais. Même si tout le monde a envie de donner des claques à cette chère Vanille, on comprend mine de rien à la fin de l'aventure pourquoi est-ce qu'elle avait un ton aussi jovial tout au long de votre périple.
Il n'y avait pas une polémique aussi autour du perso qui avait son oiseau dans ses cheveux, lui?
Saz.
Il l'avait pas trouvé. J'ai l'impression d'avoir un vague souvenir de ça.
Alors en fait,
il était un peu trop stéréotypé.
Alors je me souviens effectivement de quelques trucs comme ça. Moi pour le coup, je t'avoue que ça m'a pas du tout choqué dans l'aventure, sachant qu'en plus, déjà c'est le personnage qui te parlerait le plus à tout point de vue. Son histoire est assez bouleversante, mine de rien. C'est peut-être un des personnages les plus tristes et les plus dramatiques de l'aventure. Et il lui avait justement accolé ce petit chocobo qui avait trouvé dans refuge dans sa coupe afro pour dédramatiser justement à certains moments un peu son histoire, parce que il y a des moments, l'un des moments les plus marquants pour moi, il est avec Saz justement, et l'histoire qu'il a avec son fils qui trimballe avec lui tout au long de l'aventure.
N'en dis pas plus.
Voilà, non mais c'était vraiment bien foutu. Et alors bon, je ne sais pas sur quoi porter exactement les polémiques à l'époque, mais au contraire, moi j'ai trouvé que c'était un personnage qui était vraiment très intéressant.
Ça se portait plus pas trop sur son histoire, etc. C'était plus sur son apparence. Oui, bah, le côté le chocobo qui vient se réfugier dans ses cheveux crépus, etc.
Eux, en tout cas, Square Enix à l'époque l'avait justifié comme un espèce d'équilibre entre le côté dramatique et le côté un peu plus comique qui était ramené justement par ce petit chocobo. Enfin voilà, et on finit par citer quand même les musiques de Masashi Hamaotsu, qu'on va retrouver notamment sur FF7 Remake, mine de rien, qui avait avant ça fait Tobal numéro 1, mine de rien, voilà, c'est pas dégueulasse. Daedjo Cerberus aussi.
Un beau CV.
Un beau CV, et là pour le coup, il va prendre quand même sacrément du galon, puisqu'il va s'occuper notamment des réorchestrations de Nobuo Uematsu. Et vous avez déjà pu.
Qui envoie bien ce qu'on a pu
entendre.
Entendre
un petit peu, voilà ce que ça donne, ça envoie quand même du bois. Donc voilà, vous n'êtes peut-être pas très nombreux chez vous, de l'autre côté de la caméra, à avoir apprécié FF13, pour le coup, moi j'ai passé un excellent moment dessus, et en plus ça fait partie de ces épisodes où tu prends une grosse claque à la fin, parce que vous voyez ce petit visuel, le visuel d'Amano qui
le voit pas, là.
Qui caractérise chaque épisode, celui qui est présent sur le logo du jeu, vous ne découvrez véritablement qu'à la dernière seconde ce que ça implique en fait, et c'est quand même assez balèze en termes de symbole. Bref, voilà, si vous faites partie des quelques-uns qui ont bien aimé, moi je vous invite à défendre le jeu dans les commentaires, et sinon à nous dire pourquoi vous ne l'avez pas aimé.
Et question, si tu te contentes uniquement de faire FF13 sans 13-2 et sans Lightning Returns, est-ce que t'as quand même une histoire complète?
L'histoire se referme, c'est juste que du coup elle repart pas après. Après, je t'avoue que la fin d'FF13-2, ça part quand même pas mal en cacahuète. Quand tu commences à voyager dans le temps...
Il y a des histoires de voyage dans le
temps.
Ouais,
tu voyages dans le temps, c'est des japonais et tout, ça commence à partir très très loin. Et Lightning Returns, c'est juste la fin des temps. Mais c'est pas mal, mine de rien, si tu t'arrêtes à la fin d'FF13, parce que l'histoire est, entre guillemets, un peu plus simple, un peu plus...
Comme Matrix, faut pas regarder la suite.
De A à Z. Je suis pas sûr que tu perdes énormément en termes de scénario à t'arrêter à la fin. Et la fin, en plus, était absolument magnifique, de mon point de vue. Voilà. Donc, bon anniversaire à toi, Final Fantasy XIII, qui sortait il y a 10 ans, jour pour jour, puisque c'était le 9 mars, le jour où on enregistre ce podcast.
Voilà.
Et c'est l'heure, comme chaque semaine, du hors-jeu, les enfants. On n'y coupe pas, hein, même en la présence de nos hôtes emblématiques, ou Chloé et Oli, ou dans leur
en
cave.
En l'absence, plutôt.
Oui, en l'absence. Je j'inverse tout.
Tu vas aller les rejoindre, Ben.
Ouais, bientôt. La quarantaine me guette. Moi aussi, je vais finir par passer l'arme à gauche à moitié.
Alors, c'est la quatorzaine, hein.
La quatorzaine.
Ouais, ouais.
Oui, alors j'ai cru comprendre qu'on devait pas te dire ça. Ça restait une quarantaine de 14 jours, a priori.
Oui, donc ils ont inventé un mot. Ils ont inventé un mot parce que c'était une durée de 40 jours, mais on peut plus le changer.
On a néologisé en quatorzaine. Ouais, voilà. Bref.
Oui, c'est vrai que le mot quarantaine, plutôt que de son sens premier, maintenant ça veut dire être mis à l'écart,
pendant une période de temps donnée. Celui qui n'est pas mis à l'écart cette semaine, c'est Michael Balzari, que vous ne connaissez pas sous ce nom, mais si je vous dis Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, là tout de suite ça va peut-être vous évoquer quelque chose, puisque le musicien a sorti il y a quelques mois sa biographie chez Grand Central Publishing aux États-Unis, et elle était très attendue parce qu'il travaille dessus quand même depuis 2014, mine de rien, ça lui a pris du temps. 400 pages pour raconter justement sa jeunesse, l'histoire d'un gamin qui grandit d'abord à Melbourne, qui naît en Australie, et qui déménage avec ses parents dans la ville de New York, avant que ces derniers se séparent et qu'ils suivent sa mère et son beau-père dans la ville de Los Angeles, qui va évidemment après le structurer en tant qu'adolescent et que futur musicien. Et
structuré, ce mec est structuré, t'es sûr?
Ouais, quand tu lis, bouquin, tu comprends toute la subtilité en fait du personnage qui est finalement assez timide et vraiment à fleur de peau sur certains sujets. Et vraiment, alors sa plume, c'est une écriture vraiment de la rue, ça prend pas des gants pour parler de tout un tas de trucs, c'est quand même assez immédiat en termes de ton, et pas forcément très facile à comprendre si on maîtrise pas justement un peu l'anglais très courant, très parlé dans les rues aux États-Unis. Mais y a des passages absolument fantastiques. Alors, au-delà du fait de découvrir ce qu'il a vécu à travers la violence de son beau-père par moment, la découverte en fait du milieu musical à travers ce beau-père qui est jazzman, qui va prendre quand même un peu comme modèle parce que son père lui est resté à Melbourne, et du coup bah, il se retrouve en fait un peu déchiré entre deux pays, deux continents, à devoir grandir dans une famille pas toujours très nette et très classique. Mais il y a des moments remarquables véritablement d'écriture, le moment où il découvre la musique, le moment où il découvre le jazz justement à travers ce beau-père contrebassiste qui jam avec ses potes justement à la maison. C'est merveilleusement bien écrit. Il y a tout un passage où il parle justement de son rapport à la drogue, évidemment, parce que le bouquin s'appelle Acid for the Children, et sur la couverture, on le voit en train de tirer sur un pétard alors qu'il est sur une plage de Californie. Donc il y a évidemment tout un passage sur la première fois où il prend de l'héro. Il y a un passage en 25 étapes de tout ce qui se passe dans sa tête avant même de prendre la substance, qui est remarquablement bien écrit aussi, mais pour dire aussi à quel point ça l'a bousillé, à quel point c'est de la merde et à quel point il a recommencé à vivre à partir du moment où il a commencé à être abstinent à partir de la trentaine.
Tu vois qu'il est marqué quand même.
Ah oui, ah bah bien sûr. Mais par contre, comme Kiedis, c'était un de ses discours, c'est de dire si les mecs sont encore là aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont complètement arrêté justement et l'alcool et la drogue, et que sinon, à moins de t'appeler Keith Richards, tu fais pas forcément de
mais
vieux os.
Keith Richards, il aspire l'énergie corporelle voilà. Des autres, tu vois, c'est un peu sel, mais sans le côté on va aller pomper l'énergie vitale. Mais est-ce qu'il parle de sa carrière d'acteur aussi? Parce que pour moi, en plus du musicien, moi c'est exemple Niels. Needles dans Retour vers le futur, cette ordure de Needles qui pourrit la vie à
Marty
McFly. Marty.
Voilà. Il en parle justement à ses débuts quand il cumule des jobs justement, des petits boulots où il commence à jouer dans des groupes. Et où il commence à avoir une petite carrière d'acteur.
Qu'il a continué même encore assez récemment.
Encore aujourd'hui, oui. Il fait plein de caméos même dans des clips d'artistes à droite à gauche. Flea, c'est un mec qu'on voit tout le temps.
Oh ouais, il en parle pas mal. Mais il parle surtout de sa vie en fait d'ado dans les ruelles de Los Angeles, à errer avec ses potes. Alors la rencontre avec Kiedis évidemment, et ses débuts dans la musique. Et il y a des passages absolument fantastiques qui font justement écho à la biographie de Kiedis aussi, Scar Tissue, un moment où ils se barrent tous les deux à San Francisco pour aller voir une meuf. En décidant de pas prendre de thunes, de pas prendre de bouffe, d'y aller à la route. Évidemment, avant ça, il se rase la tête pour se faire une iroquoise, histoire de bien se faire repérer. Ils se font gauler dans le train, ils se font jeter, ils se retrouvent sans le sou, pas à destination. Ils galèrent pendant des jours sans bouffer dans les rues de San Francisco. Enfin, voilà, c'est tout un tas de choses comme ça, de galères, de vie, justement, un petit peu dans la rue. Et après, ses débuts dans la musique et comment la musique va commencer à progressivement happer finalement toute sa vie pour finir par rejoindre un groupe qui va devenir par la force des choses les Red Hot Chili Peppers. Et le bouquin s'arrête vraiment à ce moment-là en fait. Le bouquin s'arrête au moment où les Red Hot Chili Peppers se forment avec Hillel Slovak, avec Kiedis et avec Jack Irons, je crois. Bref, vous n'allez pas avoir les débuts justement des Red Hot du point de vue de Flea, vous allez avoir tout ce qui s'est passé avant, mais qui vous permet de comprendre comment en fait il en est arrivé là, comment c'est devenu ce musicien absolument incroyable, ce bassiste qui fout absolument tout le monde par terre. C'est assez passionnant. Il y a des moments un peu gênants, les moments de prise de drogue justement, il y a des moments où moi j'ai limite un peu tourné de l'œil tellement il te décrit le côté intraveineux, etc. Mais avec toujours du recul en fait, il y a des moments où il sort du récit pour parler au temps présent et revenir sur le gamin qu'il était avec des décennies de recul. Et c'est super intéressant de voir à quel point ce mec a évolué dans sa tête et est devenu un type monstrueusement humble, alors que ça a été un incroyable fouteur de merde quand il était plus jeune, mais avec un fond toujours, là on le voit, les larmes aux yeux quand il parle des souvenirs qu'il a avec sa mère pendant qu'il était à Los Angeles. Bref, si vous n'avez pas peur de vous frotter à un truc avec un niveau d'anglais un peu, je vais pas dire bas de gamme, mais vraiment très usuel, quoi, très très roots. C'est passionnant, c'est riche d'anecdotes, c'est un beau bouquin, un bouquin qui change un petit peu, qui est déstructuré mine de rien dans sa façon de raconter les choses, mais qui va vous éclairer sur Michael Balzari, qui est devenu Flea, qui est devenu connu sous le monde entier, pour le monde entier sous ce pseudo. C'est donc disponible chez Grand Central Publishing, 400 pages qui sont sorties en toute fin d'année 2019 et qui pour l'instant ne sont officiellement pas prévues pour être traduites quelque part chez nous. Alors je sais pas s'il y a des deals qui sont en cours chez un éventuel éditeur. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la vie de cet incroyable musicien, c'est chez Grand Central que
ouais,
ça se passe.
Parce que, en plus, au-delà d'être un sacré personnage avec de multiples casquettes d'artistes, c'est un excellent musicien, un des meilleurs avec son instrument, je trouve.
Bah parce qu'il a grandi avec le jazz, ouais. Il a commencé par la trompette, il a joué dans tous les groupes, tous les bands, les marching bands de son école. Il allait prendre tous les postes de trompettiste qu'il pouvait trouver. Et comme il a grandi justement avec son beau-père, jazzman, qui était un fan d'improvisation, ça lui a permis justement de se forger une culture de l'impro, d'un jeu très très libre.
Ah, avec le slap, les influences funk,
qui
ça,
se ressent
le rock.
Énormément après, parce
c'est extraordinaire.
Quand tu sais qu'il peut partir avec Foot Chanté sur des jams de 15 minutes sans problème et que les mecs se causent en permanence et restent toujours dans le ton, bah voilà, il faut bien que ça vienne de quelque part. C'est un des trucs qu'on peut comprendre justement en lisant un petit peu son parcours.
Moi, c'est un de mes. Il est dans mon top 5 ever des meilleurs bassistes du monde. Voilà.
Je vais te dire évidemment.
Ouais. Et à l'aise.
Et tu comprends aussi pourquoi il a réussi à se faire un petit trou dans, qui est pas, qui a pas de commune mesure avec sa carrière de musicien, mais dans le monde du cinéma, parce qu'il a une gueule. Et souvent c'est recherché, ça. Pour alors, ça sera jamais le premier rôle d'un film, la vedette en haut de l'affiche, mais malgré tout il a une attitude, une sorte de charisme particulier
et un timbre aussi.
Oui, en plus,
un timbre assez reconnaissable, mine de rien, qui colle bien au personnage.
Ouais.
Je me rappelle de son rôle de nihiliste dans The Big Lebowski, où il était assez fantastique.
Je me souviens plus. Je l'ai vu, Lebowski, mais ça m'a pas marqué. Contrairement à beaucoup de gens qui le trouvent culte, mais ça m'a... Moi, je me souviens surtout de Needles, là, pour le coup.
Lui, pour avoir vu Retour à la Future il y a pas longtemps, c'est pareil. Quand il l'engueule à travers la télé, enfin bon, bref, voilà.
Il se fait virer à cause de lui.
Il se fait virer à cause de lui dans le futur, mais un futur qui a été modifié après, donc.
Et normalement, son accident, de voiture qui ruine sa carrière, il est lié aussi à Needles.
Bon, il a une bonne tête de méchant, punk des rues, justement.
Ouais. Ouais. Ah bah, franchement, tu l'imagines bien à côté d'une gare, la gare de Lille, avec son berger allemand et la nana avec les cheveux mauves rasés sur les côtés.
Ah oui, mais c'est ce qu'il a été, justement.
Et sa canette de croc.
Il le raconte très bien.
Ah, il était punk à chien.
Même si, avec les filles, c'était très compliqué. Il parle beaucoup de son rapport aux femmes et de la complexité qu'il a eu à avoir sa première nana et ses premières expériences sexuelles. C'est, voilà, tout ça est très intéressant. Et tout ça conclut ce podcast 526, le podcast de la jeunesse.
Le dernier avant la mort de l'ensemble de la rédaction.
Voilà.
Non, attends, touchons du bois. Hein.
Si voilà. Vous trouvez qu'on n'est pas nombreux cette semaine, peut-être que ça sera encore pire la semaine prochaine.
Ou alors on sera 10.
On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, entre-temps, si vous ne l'avez pas encore écouté, vous avez un podcast spécial qui est sorti ce week-end pour la journée des droits de la femme, qui est animé par notre chère Eva, qui est riche d'informations justement sur la place des femmes dans le jeu vidéo en 2020. Donc en attendant justement le podcast de la semaine prochaine, si jamais il a lieu,
vous pouvez juste Poufy.
Écoutez
Poufy tout seul sur le canapé qui parlera.
Ou alors double dose cette semaine. Voilà.
Oui. Voilà, ça dépend effectivement de quand est-ce que vous tomberez là-dessus. Bref, voilà, vous avez de quoi faire, vous avez tous les jeux dont on vous a parlé à essayer ou pas.
Sauf Punch,
fonction des sorties. Un grand merci à Poufy, à la technique comme d'habitude. Merci à vous messieurs, Johnny One, Monsieur Mahut. On vous dit bah, la semaine prochaine si on est toujours de ce monde. Et en attendant, on vous fait plein de gros bisous. Ciao.
Ciao.